Comment ça va vous? Je suis heureux de vous retrouver en ce lundi 9 octobre. Bon, il fait chaud comme dans un mois d'août, mais bon, c'est pas la moindre des dingueries que nous vivons en notre époque étrange. Et pourtant, nous vivons et on va vivre et tout va bien se passer. Enfin, on va essayer. Ça va vous? C'est trop mignon. J'ai vu plein de petits. Oh là là, force aux modos, ça va être tellement compliqué ce soir. Oh là là, les pauvres modos, tout va bien se passer. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. Tous les jours, on parle d'actualité, de tension, de drame, de tension, de guerre, de crise, de voilà. Et puis on a appris à en parler ensemble de façon apaisée. Alors évidemment, de temps en temps, il y a des gens qui arrivent là pour la première fois qui sont wouhou, on est sur Twitter, on va dire des dingueries. Et puis on explique rapidement que bah non, en fait, on peut ne pas être d'accord ensemble, mais en discuter de façon civilisée, quoi. Donc ça le fait en fait. Ça le fait. Donc vous inquiétez pas, puis les modos ils ont l'habitude, et puis je fais appel à l'intelligence des gens, voilà. L'idée ici c'est que, quelles que soient nos opinions, sur tous les sujets, tous les propos peuvent être exprimés à condition qu'ils soient légaux, autorisés par la loi républicaine en France, et qu'on respecte les autres viewers, et accessoirement le streamer aussi, c'est encore mieux quoi. Donc force au modo bien sûr, mais ça va bien le faire, c'est pas comme si c'était la première fois qu'on parlait de choses compliquées ici quoi. D'ailleurs de quoi allons-nous parler? On va voir. Ça va vous? Je vois une mamie qui a fêté son anniversaire. Attends, je parle pas de toi de Cold Fire, mais c'est un peu plus haut. C'est MMG qui dit, désolé, pourquoi t'es désolé? J'ai eu ma mamie au téléphone qui fête son anniversaire aujourd'hui. Mais pourquoi désolé? Pourquoi tu es désolé? J'ai eu ma mamie au téléphone qui fête son anniversaire aujourd'hui. J'ai dû rater un truc, mais en tout cas, bon anniversaire à ta mamie. Et puis, il y a quelqu'un qui passe sa soirée avec nous et qui fête son anniversaire. C'est The Cold Fire 09, c'est mon anniversaire. Et je vais passer la soirée avec ce stream. Eh bien, voilà, rien que pour The Cold Fire, on va essayer de faire un truc bien chill, bien apaisé. Voilà. La bagarre, mais dignement, comme le dit Mister Bernays, exactement. Déborah Lane, merci pour ce 17e mois d'abonnement. Arwen C, merci pour ce 9e mois d'abonnement et le très gentil message que je ne mérite pas, mais qui me fait plaisir. Manon Bou, comment vas-tu? Merci pour le 26e mois. Les habitués sont là, comme LG Ganto 69, 26 mois aussi. Merci Altaris, merci Rome le Fou, merci Doboleps, merci Luxkix, merci Nukuki, merci Déborah Lane à l'instant. Vous êtes formidable. Alors, ça va vous? J'espère que certains ont pu regarder le sample avec Sunday hier sur World of Warcraft. Je me suis régalé. Ah, elle m'a interrompu pendant que t'entamais ce live. C'est, on a, voilà pourquoi MMG7F s'excusait du fait qu'il était au téléphone avec sa mamie qui fêtait son anniversaire, parce qu'elle elle a osé l'interrompre alors que j'entamais mon live. Si toutes les mamies qui fêtent leur anniversaire commencent à appeler leur petit-fils, leur petite-fille, alors que le stream de Samuel débute, c'est vrai que ça va poser problème. À un moment, il faut un peu appeler les aînés et nos aïeux à un peu de raison, à un peu de respect pour le stream. Hein. Oui. Allez, je vous lis un petit peu, puis on démarre, je vais vous montrer ce que j'ai mis de côté pour vous dans les journaux ce matin et ce soir. Il y a Mister... Là, on est parti pour parler des grands-parents, et vous avez bien raison, c'est très important. Il y a Mister Pixio qui dit « Visitez vos grands-parents, allez les voir, allez les embrasser, c'est incroyable, j'ai essayé ça hier. » De la force à Top Zeus, dont que sa dentiste a foiré. Manifestement, ça fait houille. J'ai cru comprendre que ça avait parlé de panda hier soir. J'ai halluciné sur le panda de WoW hier, effectivement. Oui, j'ai pas beaucoup joué. Gwenega 79, j'ai un peu joué, voilà, sous la férule et le gentil accompagnement de Sunday. Mais effectivement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis, de toute façon, je pense que ce jeu, pour l'explorer, il faut des centaines d'heures de jeu. Et je savais qu'en 3 heures, en fait, même en allant vite, on ne ferait que qu'effleurer, tout gentiment effleurer cet univers de fou. Et donc, voilà, je pense que c'était pas forcément l'idée du siècle de jouer moi pendant 2h30, quoi, plutôt d'écouter Sunday et Joe d'ailleurs, qui connaît aussi très bien l'univers de World of Warcraft. J'ai trouvé Sunday extrêmement pédagogique d'ailleurs. Pédagogue plutôt d'ailleurs. Et elle était formidable. D'ailleurs, vous étiez nombreux à regarder ce stream, c'est cool. Il est en replay, hein, il est en replay gratuitement sur YouTube. Je vous lis un petit peu, puis on va démarrer ce petit. Bonsoir, il y a de la pub maintenant avant les streams de Samuel, me dit Dicalis, ben depuis toujours en fait. C'est Twitch qui balance des pubs. T'en as jamais eu avant? C'est bizarre. Ah, on est d'accord que Twitch envoie de la pub tout le temps, non? Depuis ever quoi, non? Enfin moi quand je me connecte à n'importe quel stream des copains, je me prends une page de pub à chaque fois. Pas toi? T'avais un truc magique? Moi j'ai pas moi. Leak pour les invités de vendredi. Kitagawa, je suis un petit peu en retard. Je n'ai pas mes 4 invités de vendredi prochain. Mais on va y arriver. Ça dépend, me dit. Allez, on parle de la pub, ça dépend. Ticanis me dit, je devais avoir un cheat code sans le savoir. Voilà. Moi, chaque fois que je vais voir le stream d'un ami, je me prends une page de pub. Oh, putain, vous avez de la chance. Cardoc me dit, même sans bloqueur, parfois je suis parfois des mois sans avoir nulle part. Moi, j'en ai toujours. À chaque fois que je vais sur un stream, je me prends une pub. Juste, j'ai pas de chance. Alors Est-ce qu'on pourrait avoir Clément Viktorovitch un vendredi? Oui, Clément, il est réinvité. Hein, Clément qui nous a gentiment raid d'ailleurs hier. Clément, il vient quand il veut. J'ai formalisé l'invitation pour qu'il revienne, puisqu'il était venu en saison 1 de l'Hebdo Etienne. Donc j'espère qu'il reviendra en saison 2. Ouais. De tous les jeux que tu as découverts lors de ces soirées, auxquels joues-tu encore, me dit Croucou, aucun. Aucun, parce que j'ai pas encore mon setup de gamer. Qui arrive là, qui arrive. Et parmi tous les jeux qu'on m'a fait découvrir ces dernières semaines, c'est prévu. C'est le move d'après, voilà. Donc je vous avoue que pour l'instant j'ai un petit faible pour The Witcher. J'ai un petit faible pour explorer The Witcher. J'ai eu un petit crush pour Rocket League, assez étrangement d'ailleurs, parce que je pensais pas du tout que j'allais être hypé par ce jeu quoi. Donc Rocket League, World of Warcraft, en fait ça me fait peur. C'est-à-dire que l'univers me semble tellement énorme. que je sais pas si c'est une très bonne idée en fait. Que je me lance. Voilà. Jiraya m'a donné très envie de bosser sérieusement Mario Kart pour. Voilà. Où je joue comme un enfant de 4 ans. Pour maîtriser un peu les dérapages, pour trouver les raccourcis, tout ça. Voilà. Ou alors j'approfondis Smash. Qu'Étoile m'a fait découvrir et auquel je joue régulièrement avec Malo. Ça fait beaucoup de. Faudrait que je fasse un sondage. Mr. Banas me dit waouh, c'est toujours une bonne idée. Bonjour Alexandra, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, mais en gros, voilà les jeux que je viens d'évoquer, ceux qu'on m'a présentés, c'est ceux qui me titillent un petit peu. Donc World of Warcraft, The Witcher, Mario Kart, Rocket League, on va dire. Voilà. Pierre-Yves me dit « Impressionné, tu as peur d'être englouti par l'univers et ne pas en sortir ?» Ouais, exactement. J'ai peur que World of Warcraft soit trop gros pour moi. Voilà. Mais t'as raison, la question c'est le plaisir. Il y a Johnny Chippo qui dit « Pour un stream, il faut celui avec lequel tu t'amuses le plus. » Oui, c'est ça, ouais. Oui, t'as plus qu'un sondage, en fait. Ouais. Minos me rassure en me disant « Go, lancez WoW, ça va te prendre à peine 5 ans de ta vie, quoi. » Je pense que mon épouse et les enfants vont adorer. Mais voilà. En tout cas, ça se met en place, quoi. de l'idée de streamer un jour du jeu, on est à cette semaine, je reçois le PC et les écrans, quoi. Oui, ou même F1 23, hein, parce que j'ai pas rendu le volant, Nebis. J'ai encore le pédalier et le volant. Pourquoi pas, hein? Voilà. J'avais pas vu. C'est quoi? Mamie Monique fête ses 86 bougies. Sarah, j'avais pas vu. Mamie Monique fête ses 86 ans aujourd'hui. Mamie Monique, vous êtes là ou pas? Est-ce que Mamie Monique est là? Mamie Monique, si vous êtes là, je vous souhaite un doux, joyeux et lumineux anniversaire. J'avais pas vu le message de Sarah. Ça y est, ça tacle déjà. C'est quoi 5 ans, 5 ans de jeu sur 5 ans de jeu sur WoW quand on est si proche de la retraite? Eh, vous êtes fous, hein? Avec le... T'en suis où, moi? Il me reste, je pars à 67 ans. Il me reste 15 ans de cotisation, quoi. Ça va être chaud, hein? Je sais pas si je trouve une boîte, une entreprise qui va bien vouloir me faire travailler pendant 15 ans et me filer les cotisations. Hein. Je suis pas sûr, moi. Ça me fait bien flipper, ouais. Non, bien sûr qu'on va streamer avec une planche sur les genoux. Tu sais que moi, mes invités, je les invite à streamer avec une planche sur les genoux, dans mon canapé. Il y a Karadoc qui râle, qui dit « Ouais, faut un vrai bureau de gamer, par contre, pas possible de jouer avec une planche sur les genoux. » Non, non, ici, on sait. Rayou, il a streamé pendant des années avec une chaise de jardin. Moi, je vais streamer avec une planche. Hein. Mm. La maison de retraite gaming, c'est un concept, j'avoue. C'est Minos qui nous propose ça. Oh putain, ça n'existe pas, ça, encore. Vous imaginez? Attends, ouais. Je vais lancer un Kiss Kiss Bank Bank, là. Une grosse collecte, là. Comme pour le musée des jeux vidéo, je vais lever des centaines de milliers, voire des millions d'euros, et je vais lancer un réseau d'EHPAD gaming. Voilà. Avec tout le confort, voilà. Déjà, les chaises à la cantine, ce sera des chaises gaming. Voilà. Chaises gaming. Chaque table aura son PC intégré. Voilà. Tout sera en LAN, tout sera en réseau. Voilà. Et les pensionnaires pourront jouer ensemble, tu vois. Il y a Dédé. Dédé de la chambre 7 qui pourra défier Roger de la chambre 12 à l'étage. Voilà. Il y a Thérèse qui est au rez-de-chaussée, qui bouge plus beaucoup, mais qui pourra lancer des défis à Marielle, qui est au deuxième. De toute façon, elle ne peut pas la blairer. Voilà. Ce sera bien, hein? Non, j'ai pas vu le stream de Domingo avec sa grand-mère. J'ai pas vu. Ça doit être sympa, ça. C'est mignon. Une EHPAD Gaming Academy. Très bien, ça. Oui, c'est les études qui font que je vais avoir ma retraite à 67 ans. Ouais. Est-ce que les pensionnaires pourront avoir des fauteuils roulants gaming? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais on est en train de construire le projet là en direct, hein. Ouais. Go lancer une équipe d'e-sport LOL EHPAD Corp à l'Aster. Je crois qu'on a le titre de cette équipe. Une question pour un champion spécial gaming, je suis pas sûr, Nicolas, parce qu'on s'adresse à un public très général, très généraliste, très divers aussi. Et c'est pour ça qu'il y a des questions dans tous les... D'ailleurs, on fait pas de questions pour un champion spécial sport, et on fait pas de questions pour un champion spécial histoire, et pas de questions pour un champion spécial, que sais-je, musique. Même quand on fait une question pour un champion spécial fête de la musique, par exemple, c'est il y a un petit peu plus de questions musique que dans une question pour un champion normal, mais c'est pas full musique, quoi. Parce que le succès de ce jeu qui existe depuis 35 ans quand même et qui cartonne, c'est justement parce qu'en fait ça fait appel à tous les domaines de la connaissance. Donc en fait, l'idée de spécialiser un question pour un champion n'est pas tellement dans notre ADN. Donc un question pour un champion spécial gaming, en vrai, ça bon, alors on ferait peut-être un peu d'audience chez les gamers, sauf qu'on perdrait énormément chez les autres. Voilà, donc je suis pas sûr, en fait. Mais par contre, il y a des questions gaming dans Question pour un champion, c'est-à-dire, et il y en a de plus en plus. Voilà. Ce que remarque BCHMob, d'ailleurs. Voilà, oui, exactement. Comme le dit Archibab, c'est le principe de la culture générale. Mais il y a des. De la même manière qu'il y a des questions sur le sport, sur la mythologie, sur l'actualité récente, sur la science, sur la littérature, sur les arts, sur la peinture, sur la musique, y compris la plus récente, il y a des questions aussi sur le gaming, bien sûr. Quelle est l'émission qui a fait le plus d'audience de l'histoire des questions pour un champion? Bah, c'est une quotidienne qui existe depuis 35 ans. En fait, la rue Arthur, il faudrait aller au début du jeu parce que le jeu a 35 ans. Le jeu a été lancé à une époque où il n'y avait pas, où il y avait donc beaucoup moins de chaînes de télé, beaucoup moins de concurrence. Donc je suppose que si on remonte au tout début de Questions pour un champion, il y a très 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 longtemps, on va trouver des audiences insane que faisaient les émissions et les chaînes de télé à l'époque où il n'y avait pas grand-chose à la télé, quoi. Donc, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Ça, en soi, ça n'a pas beaucoup de sens parce que c'était une autre époque, quoi. Donc, je t'avoue que même nous, on ne sait pas parce que ça ne nous intéresse pas de savoir quelles étaient les audiences d'un jeu quand il y avait genre 3 chaînes ou 6 chaînes, quoi. Ça n'a pas trop de sens. Par contre, on sait que ça cartonne aujourd'hui et que ça fait 7 ans que les audiences montent tous les ans. Ça, c'est ça qui est important. Voilà. Qui écrit les questions? 12 personnes à temps plein. Vous avez 12 rédacteurs, rédactrices qui, à temps plein, en CDI, et ça, c'est vraiment une spécificité de Questions pour un champion, écrivent toute la journée, tranquillou, avec, voilà, derrière leur petit clavier, avec leurs encyclopédies, leurs dicos à l'ancienne, Internet quand même, faut pas déconner, une énorme banque de données, voilà, et un logiciel spécial. 12 personnes à temps plein, c'est même le seul jeu qui emploie des gens en CDI comme ça. Et ça se retrouve dans la qualité des questions. Je vous vante l'émission, mais en vrai, c'est le jeu de culture générale le plus dur de la télé, c'est ce qui fait sa réputation. Et en fait, quand vous penchez sur la qualité des questions, bon, ben, pardon, mais ouais, il n'y a pas trop photo, quoi. Et donc, vous avez 12 personnes à temps plein, parce qu'il faut sans arrêt, vous avez 6 émissions par semaine de 45 minutes, sans arrêt des nouvelles questions, bien sûr, parce que si le public qui est très fidèle se rend compte que tous les mois ou tous les 2 mois, c'est les mêmes questions qui reviennent, ou genre un petit peu, quoi, en faisant des économies, ben, il va se rendre compte très très vite, c'est-à-dire que les audiences vont prendre très très cher, quoi. Exactement, il y a Pierre-Yves qui dit, est-ce que ce sont toujours des questions originales ou recyclées? Ce sont toujours des questions originales. En fait, quand les rédacteurs et les rédactrices inventent, créent une nouvelle question d'actualité ou de culture, ils la rentrent dans un logiciel spécial qui n'est qu'à eux et qui en fait va leur dire si cette question a déjà été posée sous cette forme ou sous une autre. Et si effectivement on se rend compte que cette question a déjà été posée il y a un certain temps, eh bien on va la mettre de côté. Et ben, voilà. Alors, un même genre de question peut revenir, on va dire, tous les 4, 3, je sais pas, 3, 4, 5 ans, c'est pas trop grave. Mais 6 mois après, non, quoi. Voilà. C'est vraiment une belle machine, hein. Ouais. Alors comme c'est Rayou l'a remarqué hein, dans sa méta, comme ce sont 12 personnes qui sont, d'ailleurs je trouve ça formidable, hein, qui sont les mêmes certaines depuis très longtemps, alors moi j'ai remarqué, et d'autres, et les habitués aussi, et Rayou en est, que bah, il y a une méta, et, bah, et que les hommes et les femmes qui participent aux questions, bah, ils ont des centres d'intérêt propres qui font que bah, vous avez quand même des thématiques qui reviennent plus souvent que d'autres. Voilà. Moi je vois sur les questions médias par exemple, je trouve toujours un. Je trouve qu'il y a des noms de présentateurs, présentatrices qui reviennent plus que d'autres. En musique, il y a des groupes, certains groupes qui reviennent un peu plus que d'autres. Un peu plus, j'entends bien, quoi. Y compris des trucs un peu pop, punk rock, quoi. C'est marrant d'ailleurs. Des histoires comme ça. Et en fait, au bout de. C'est ma 8e saison, je me rends compte qu'il y a des trucs comme ça qui reviennent. Alors, pas beaucoup, hein. Voilà, c'est un peu la méta. Mais en fait, il y a tellement de questions que tu pourrais maîtriser totalement la méta. En vrai, ça suffirait pas, quoi. Même si Rayou connaît ça très très bien, quoi. Bon, arrêtons de parler de questions pour un champion. Je vais arrêter de vous saouler avec tout ça. Je remercie Gogo 100 1 2 3 6 7, c'est sûrement ton mot de passe. Merci pour le troisième mois d'abonnement. Rome Codage, merci pour les bits. J'ai perdu un pari. Joli pseudo, merci pour le 10e mois d'abonnement. Maude Guillot, merci pour le 25e mois. Lucien Ducasse, merci pour l'abonnement offert à Tikanis avec qui on parlait tout à l'heure. Merci Matt pour le 26e mois d'abonnement et merci pour le simplet. Avec Sunday, je me suis régalé. Je vais vous annoncer. Oh, faut que j'envoie à Pépin les infos pour l'émission de dimanche. Ça me fait penser que tiens, je vais vous donner une petite info sur un stream qui arrive lundi prochain aussi. Déborah Lane, merci pour le 17e mois. Rewense, merci beaucoup encore pour le 9e mois et le gentil message qui m'a touché tout à l'heure. Voilà. Alors, donc, petit leak. Dimanche, je vous dis pas le jeu. D'ailleurs, je me suis gouré en vous disant Minecraft en fin de stream avec Sunday hier. Je vous ai dit dimanche prochain Minecraft, pas du tout. C'est le dimanche d'après. Donc en fait, dimanche c'est multi-jeux. C'est 3 jeux avec un invité que je vous dévoile dans quelques jours. Ok. Vendredi, je vais rien vous dévoiler du tout parce que je suis à la bourre sur les invités. Voilà, je 4 invités toutes les semaines. C'est moi qui m'en occupe, c'est chaud. Donc je suis pas prêt. En revanche, j'ai l'insigne honneur, la joie et le plaisir de vous annoncer que lundi prochain, 20h, petit stream exceptionnel, reprise de la rencontre Étienne. C'est hop, quelqu'un à côté de moi ici, tranquillou pendant 3 heures pour répondre à vos questions. Sur un invité sur des thématiques qu'on aborde genre tous les jours quasiment dans ce stream. Voilà. Eh bien, c'est le président de l'ARCOM, hein, l'ancien CSA. L'ARCOM, vous savez, l'institution qui est compétente pour encadrer les actualités télévision et radio en France, voilà, qui a aussi un rôle dans la régulation d'Internet. Voilà. C'est Roch Olivier Maistre, exactement. Voilà. C'est le patron de l'ARCOM sur la régulation de la télé, la régulation de la radio, la régulation d'Internet, la protection... la lutte contre le harcèlement, la lutte contre les fake news, la protection des publics sur Internet, notamment des mineurs, etc. Donc, énormément de sujets. Voilà. J'ai eu une petite réunion téléphonique avec des membres de l'ARCOM aujourd'hui. Et donc, il sera là. C'est son premier stream, d'ailleurs. Il sera là lundi à 20h. Je pense que ça va vous intéresser parce que c'est des questions dont on parle au quotidien. Quoi. Voilà. Alors Space Shepard pose une très bonne question, est-ce que l'ARCOM gère Internet aussi? Alors, il ne gère pas Internet comme il gère la télévision, parce que l'ARCOM a un droit de regard direct sur le contenu des programmes radio et télé pour voir s'ils respectent la loi et des cahiers des charges. Sur Internet, c'est pas comme ça. En revanche, l'ARCOM a un rôle, une responsabilité dans ce que les internautes en France n'aient pas accès trop à des dingueries. Quoi. Bon, on lui posera la question. Quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? D'ailleurs, bonne question. Hein. Il y a Tchernosaurus qui, ça fait beaucoup de choses en même temps pour une seule agence. Ouais. Oui, parce que l'ARCOM, effectivement, comme le rappelle Ribose, a récupéré le périmètre de l'ADOPI. Hein. L'ARCOM, c'est né un peu de la fusion du CSA et d'ADOPI. Voilà. Bon, moi, je vais bosser un petit peu le sujet hein, là-dessus, parce que je ne suis pas un spécialiste de l'ARCOM. Voilà. En revanche, je sais que l'ARCOM s'intéresse à beaucoup de sujets qui, moi, m'intéressent et qui, vous intéressent. Sur ce qu'il y a à la télé, ce qu'il y a à la radio, est-ce qu'on peut faire n'importe quoi à la radio, à la télé, dire n'importe quoi, et est-ce que l'ARCOM a une capacité, un pouvoir de régulation sur Internet. Oui, un café, je sais, à 20h47, c'est pas très sérieux. Non, c'est du café. Mais je me suis réveillé à 5h, donc 6 émissions enregistrées. Aujourd'hui, le petit footing pour entrer cool là. Et donc là, j'avais besoin d'un petit café pour me relancer. Voilà, rendez-vous. Comment ça, la caméra qui penche? Non, ça, voilà. Ouais, non, ça va, ouais. Peut-être la table qui penche plutôt. Ah, c'est pour ça que ma table penche. Ah, c'est peut-être. c'est peut-être pas impossible. Non, non, c'est peut-être ma caméra, ouais. Ouais, ouais. C'est peut-être l'immeuble qui penche, mais peut-être, je ne sais pas. Bon, on s'en fout. C'est très joli comme ça. Rondoudou, merci beaucoup pour le 16e mois d'abonnement. Mix PRTZ, merci beaucoup pour le 8e mois d'abonnement. Gogo, 1, 2, 3, 6, 7, je t'ai remercié de nouveau. Bravo pour ton mot de passe. Bon, les amis, je suis là parce que ce matin, j'ai lu les journaux pour vous, mais j'ai pas pu streamer parce que j'étais en enregistrement de questions pour un champion. J'ai lu aussi le monde de ce soir en rentrant là, et ce que je voulais vous proposer, eh bien, c'est de vous faire une petite revue de presse pour parler de l'actualité du jour, l'actualité qui nous parle bien sûr beaucoup d'Israël et de Gaza. Voilà, vous êtes prêts? Je vous fais un petit sommaire, c'est-à-dire que même ceux qui ne peuvent pas rester 2 heures là, vous avez l'essentiel de l'actualité. Si j'ai votre go, si j'ai votre yes, eh bien j'y vais, c'est vous qui me dites. Let's go ou pas? Hâte de voir, parce que j'y comprends rien à ce conflit, me dit... m'a dit qui? Tu n'es pas le seul, hein, tu sais. Arwen C, on est là pour essayer de comprendre. Voilà, on est sur des sujets extrêmement compliqués. Voilà, donc on va essayer de comprendre. Alors moi, je suis très très loin d'être en mesure de vous dire, voilà, moi je vais vous expliquer le conflit au Proche-Orient. Ça fait 25 ans que je le suis en tant que journaliste. Ça fait 25 ans, tout jeune journaliste, déjà je me rappelle, c'était déjà un des sujets. À une époque, c'était beaucoup plus présent d'ailleurs dans les médias que ça ne l'est aujourd'hui. Le conflit au Proche-Orient, moi en tant que journaliste, je l'ai vu je l'ai vu disparaître des médias hein, ces 10 dernières années. Quand j'avais 25 ans jusqu'à mes 35 ans, le Proche-Orient en parlait tous les jours. Et puis ce conflit qui durait, en fait, c'est comme si on l'avait oublié. Voilà. Hein, l'information, c'est ce qui est nouveau, c'est ce qui change. Bon, bah, quand ça dure depuis la création de l'État d'Israël, en fait, hein, les gens se sont en quelque sorte habitués, quoi. C'est comme ça. Et là, on en reparle de nouveau. Ce qui est assez nouveau, en fait. Ouais. Je suis donc pas le seul à rien imiter depuis des années à ce conflit, Minos. Mais non, en fait. Mix PRTZ nous pose ça en mode wow. Hein. Pareil, je comprends rien. Qui est la Horde et qui est l'Alliance dans l'histoire? Ouais, ben ça, on va en parler. Et c'est pas moi qui vais vous expliquer, en fait. On va lire des choses et puis on va essayer de comprendre ensemble, de choper des arguments ici. Voilà. Ça n'a rien à voir, ça. Il y a Picoum qui dit « Pas la peine de comprendre ce conflit car rien ne justifie ce massacre, ça n'a rien à voir. » Ce conflit qui dure depuis la création de l'État d'Israël et ce massacre, tu parles des attaques du Hamas, ce sont deux choses différentes. Dans ta phrase, ça ne va pas. « Pas la peine de comprendre ce conflit car rien ne justifie ce massacre, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. » Ce massacre et puis la riposte actuellement de Tsahal de l'armée israélienne, ce sont des épisodes de ce conflit. Donc on va pas juste s'arrêter à ça et on va essayer de comprendre historiquement dans quoi ça se... Il s'agit pas de comprendre, d'excuser, rien du tout. Il s'agit de prendre un tout petit peu de recul, quoi. Alors, Tchernosaurus, moi je vous leak un petit peu ma très modeste position sur ce sujet. Tchernosaurus dit par exemple, ce conflit est complexe car il n'y a pas de méchant ou de gentil dans l'histoire, à part les innocents... évidemment. Dans le temps long de ce conflit israélo-palestinien, on en reviendra un moment, mais moi c'est ma modeste analyse là-dessus, Tchernosaurus n'est pas loin d'avoir à mon sens vu juste, quoi. Mais on va en parler. À une époque d'ailleurs, je suis allé sur place quand j'étais jeune journaliste, et je vous le disais, le Proche-Orient était dans tous les journaux tous les jours. J'étais jeune journaliste, je travaillais à iTélé à l'époque et j'avais une semaine de vacances. J'ai pris un billet pour Israël, pour aller voir, parce que j'avais du temps à l'époque et je voulais voir de mes yeux, en fait, ce dont les journaux parlaient tous les jours. Je me dis, c'est pas possible, en fait, il faut essayer de... Encore une fois, c'était beaucoup plus présent à l'époque dans les médias, et en fait je suis allé sur place. Alors c'est rien, une semaine, hein, pour comprendre, mais j'ai compris des choses quand même. Je suis allé à Jérusalem, je suis allé à Tel Aviv, je suis allé dans les territoires. Il y avait un journaliste d'Europe 1 qui s'appelait Xavier Yvon, qui est revenu en France depuis, mais qui était le correspondant notamment d'Europe 1 en Israël et dans les territoires. Et en fait, donc j'étais allé tout seul, j'étais allé avec lui, j'avais rencontré des jeunes, notamment des gens qui étaient dans les ONG, on était allé un peu, et j'avais rencontré des Israéliens, et j'avais rencontré des Palestiniens, les deux avec une grande hospitalité d'ailleurs, et ces deux parties, ces deux camps, m'avaient proposé leur regard sur la chose. Donc j'étais allé voir sur place, en fait. Et ce que j'en avais retenu, c'était que, bah, en fait, tout le monde avait raison, quoi. Comme souvent dans les conflits qui durent, quoi. Merci Toto pour ce très gentil message. Ferme ta gueule, un tel autre de fils de pute, et va bien niquer ta mère, j'espère que tu crèves. Merci beaucoup. Tu pourrais sub quand même, par contre. Bah non, mais faut pas le bannir, parce qu'il peut sub quand même s'il est banni ou quoi. Alors, il a été banni, je sais pas s'il peut sub. Ah zut. Non, mais tu si tu sub, c'est pas grave. Il peut sub quand même. Bon, bah, si tu pouvais sub quand même, parce que j'ai pas mal de faux frais. Et donc, dans les conflits qui durent comme ça, en fait, voilà, à un moment, on se rend compte que ce qui crée la durée du conflit, et qui fait que ce conflit dure, c'est que bah, tout le monde pense avoir raison, et que quelque part peut-être que tout le monde a raison, quoi. D'un côté, alors là je vous laisse, ok, je vais vous simplifier, je vais vous résumer 50 ans d'histoire en 10 secondes, ça n'a aucun sens. D'un côté, c'est chez moi, c'est rien, c'est pas un sub de notre ami, hein. D'un côté, des juifs à qui la communauté internationale a décidé de donner un pays, de créer un état pour qu'enfin, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, eux, qui n'avaient pas de pays à eux pour vivre en paix, puisqu'ils avaient été quand même, ils avaient été victimes de ce que vous savez par le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a eu cette idée, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de créer un État pour que les Juifs puissent vivre en sécurité et en paix, quoi. Voilà. Sauf que le pays, il est créé ex nihilo sur des terres, pas n'importe lesquelles, où il y a déjà des gens, hein, qui sont des Arabes et qui sont des Palestiniens, quoi. Voilà. Donc, on crée un État moi, ce que j'en ai retenu, hein, on crée un État pour permettre à un peuple juif qui a subi l'Holocauste de vivre en sécurité et en paix, sauf qu'en fait, pour créer cet État, on prend des terres où des gens vivaient, et des gens vivaient en paix, quoi. Voilà. Et on chasse ces gens. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est le sionisme, exactement. Et alors... voilà, et c'est là que tout commence, quoi. Voilà. On va en parler ce matin. Ce matin, on est le soir. Voilà. Dommage que vous ayez ban notre ami là, qui était en forme. Il avait sûrement des trucs vachement pertinents à nous dire. Ah, c'est qui on? Bah, c'est la communauté internationale, en fait. Voilà. Ah, pour beaucoup, c'est pas les nazis, hein, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est les gens qui avaient gagné la Seconde Guerre mondiale contre les nazis, quoi. On y va? On lit un petit peu l'actu? Voilà. Après, c'est pas moi ce soir qui vais vous expliquer en 10 minutes les racines et l'origine du conflit du Proche-Orient. Hein. Ça va être un petit peu court. Hein. Ça va être un petit peu court. Ok. On y go? Ok. Bourzouf, merci pour le 12e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Allez, let's go. Allez, le petit sommaire. C'est parti. Et vous verrez que toutes les unes... deux journaux ce matin et ce soir aussi avec Le Monde, eh bien, sont sur ce conflit. Alors moi, ce que je regrette, c'est que justement, ça manque de mise en perspective, ça manque de recul. C'est-à-dire qu'on a les faits, on a les attaques terroristes, parce que ce sont des attaques terroristes, hein, quand on s'attaque à des civils, à des innocents, à des civils, à des femmes et des enfants, c'est du terrorisme. Zéro débat, voilà. Donc les journaux se penchent sur... les attaques terroristes du Hamas, se penche aussi sur la riposte militaire qui va être ultra-violente de l'armée israélienne de Tsahal, où des innocents vont également être frappés, et sont déjà frappés, hein. Là aussi des civils et des femmes et des enfants. Voilà. Mais en fait, il n'y a pas de mise en perspective et il y a, comment dire, assez peu de mots d'explication en quoi s'enracine ce conflit, cette haine, voilà, pour qu'on puisse, nous, un petit peu le comprendre. Voilà. Bon, peut-être que dans les prochains jours, on aura un peu, mais j'étais un peu déçu, quoi. Bon, on va voir un petit peu ce qui s'est écrit quand même. Merci Kerigana pour ce 13e mois d'abonnement. Allez, c'est parti. La une du Parisien ce matin, la tragédie des otages, hein, puisque vous savez que de nombreux Israéliens sont retenus en otage. Selon les autorités israéliennes, le groupe terroriste islamiste détient plus de 100 prisonniers, civils et militaires. Terrible épreuve pour le pays endeuillé par la mort d'au moins 600 personnes lors des attaques de samedi. Les bilans ont évolué, hein, ça c'était ce qui était écrit ce matin. Les chiffres du Monde qui est sorti cet après-midi ont déjà évolué. Et on ira voir peut-être sur Internet les derniers chiffres qui sont sans doute plus lourds des deux côtés d'ailleurs, puisqu'on parle de centaines de morts des deux côtés. L'insoutenable attente, c'est l'attente en fait des proches, hein, des personnes qui ont été enlevées. L'arme des lâches, c'est l'édito ici que vous voyez de Nicolas Charbonneau, directeur des rédactions du Parisien, sur ces attaques terroristes du Hamas, parce que ce sont des attaques terroristes, il n'y a pas de débat là-dessus. Et une question intéressante ici, qui est traitée par au moins deux ou trois journaux, quelle est la stratégie du Hamas avec cette prise d'otages massive, voilà. Déjà, quelle est la stratégie du Hamas avec ses attaques de ce week-end et avec ses prises d'otages? On essaiera de comprendre ce qu'essaye faire le Hamas, alors que le Hamas savait très très bien que la riposte d'Israël derrière serait terrible, quoi. Et puis, il y a un débat politique en France qui ne vous a pas échappé, puisque les réactions, les positions de certains, d'ailleurs pas tout le monde, élus LFI, ont provoqué beaucoup de réactions. Les ambiguïtés des insoumis font vaciller la NUPES. Les prises de position de nombreux députés insoumis ont suscité une pluie de critiques au sein de la majorité. mais aussi de plusieurs personnalités de gauche, et même au sein de LFI, d'ailleurs, il y a des dissensions sur le sujet. Je vois que ça crée beaucoup de réactions aussi dans le chat. On se penchera là-dessus parce que ce n'est pas un aspect inintéressant. La une du Parisien, de Libération, voilà, avec des familles touchées, des corps de civils en travers de la route. Et puis au milieu, vous reconnaissez peut-être ces images de cette grande fête-là, de jeunes Israéliens, de cette rave, voilà, qui a été ciblée par des combattants du Hamas. Voilà. Ce sont des jeunes qui étaient en train de danser. Une des thématiques de cette fête, c'était la paix d'ailleurs. Et nombreux ont vu des vies fauchées. Quoi. Je pense que vous êtes au courant. Voilà. De la rave au cauchemar. Titre Libé, abject, on lira cet édito de Dove Alphand dans Libération, abject. Voilà, pardon pour les images très très fortes là. Le Figaro, après l'horreur, Israël prépare sa riposte. Ground Zero, pourquoi Le Figaro utilise ces termes qui renvoient aux attentats du 11 septembre? Voilà, ça c'est une vraie question. On essaiera de comprendre pourquoi Le Figaro évoque le 11 septembre aux États-Unis pour traiter ces attentats du Hamas, voilà. Une ligne rouge franchie par les insoumis, voilà, un article sur les conséquences politiques en France de ces faits. Israël en guerre, c'est la une de la Croix, voilà. Pourquoi, voilà, on comprendra sûrement pas ce soir, même si on va faire un effort, les raisons profondes du conflit israélo-palestinien. C'est dommage, dommage qu'on n'ait pas trouvé un article en deux ou trois pages un peu propre là-dessus. Moi, je pense que la presse française pourrait faire ça. Je suis déçu que dans Le Monde, ce soir, il n'y ait pas ça, peut-être demain. Voilà. En tout cas, on va essayer de comprendre pourquoi le Hamas, en tout cas, a pris le risque de défier Israël sur son sol, sachant que le Hamas allait savoir ce qui se passait derrière. Quoi. Voilà. Bon, c'est du calcul, c'est de la politique, en fait. Hein. Voilà. Par contre, le Mossad ne savait rien. Flèche Azur, bah, ça, c'est une des questions, effectivement. Il semblerait que le Hamas ait réussi à prendre le Mossad, donc le service secret israélien, de court, en fait. Voilà. Une tragédie sans issue. Voilà. Donc ça, c'est hyper résumé. Ah, c'est pas mal quand même. Alors, c'est très court, trop court, mais en quelques lignes, on a un édito de Jean-Dominique Merchet qui résume un petit peu ce que quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure. Je vous le lis, on est dans le sommaire, mais je vous le lis, en fait. Parce que, évidemment, ce qui est important ici, c'est de comprendre ce qui s'est passé, d'essayer d'imaginer ce qui va se passer, de se dire qu'il y a énormément d'innocents, de civils, d'hommes, de femmes, d'enfants qui vont perdre la vie, qui ont perdu la vie et qui vont perdre la vie dans les prochaines heures, les prochains jours dans cette région, voilà. Et aussi de comprendre comment on en est arrivé là. Et là, c'est très court, mais je trouve ça assez juste. On a un édito qui s'appelle « Une tragédie sans issue », l'opinion qui parle d'une tragédie antique, c'est une tragédie qui n'a pas d'issue, en fait. Chacun des deux camps, donc on parle des Israéliens, on parle des Palestiniens, a de bonnes raisons de considérer qu'il a le droit et la morale de son côté. Qu'il a le droit et la morale de son côté. On parle pas du Hamas, là, on parle des Palestiniens. L'injustice faite aux Palestiniens est tout aussi réelle que le désir des Juifs, trop longtemps persécutés, d'avoir enfin un refuge. C'est ce que je vous expliquais avec mes mots maladroits à moi, hein. je suis pas historien, hein. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la création d'un pays, d'un État pour protéger les Juifs, pour leur offrir un refuge, hein, après l'Holocauste, d'accord ? Donc, c'était un droit que de leur donner, et l'injustice faite aux Palestiniens d'avoir pris leur terre et de les avoir chassés. Donc je relis cette phrase. Chacun des deux camps a de bonnes raisons de considérer qu'il a le droit et la morale de son côté. L'injustice faite aux Palestiniens est tout aussi réelle que le désir des Juifs, trop longtemps persécutés, d'avoir enfin un refuge. Mais quoi qu'ils fassent, les deux acteurs finissent par retomber inexorablement dans la violence. C'est-à-dire que ces deux acteurs ont tenté de se parler au travers de ces décennies. C'est ce qu'on a longtemps appelé le processus de paix israélo-palestinien. Voilà. On ne parle plus. Moi, quand j'étais jeune journaliste, c'était un concept dont on parlait tous les jours, hein. Le processus de paix israélo-palestinien, c'est parce qu'il y avait un dialogue, hein, qui n'avançait pas beaucoup, mais un dialogue permanent entre les deux parties pour essayer de trouver une solution, hein, avec un État palestinien et un État avec Israël d'un côté, voilà. Et puis ce processus israélo-palestinien, ces négociations de paix, en fait, n'ont jamais débouché. Quoi qu'il fasse, les deux acteurs finissent par retomber inexorablement dans la violence. Il y a 30 ans, le 13 septembre 1993, lors de la signature des accords d'Oslo, On avait pu croire que les deux parties avaient trouvé ensemble le chemin de la paix. Il n'en a rien été. On pourrait débattre à l'infini pour savoir qui porte la responsabilité de cet échec. Mais auparavant, il faut en faire le constat. La solution, c'est ce que je vous disais à l'instant, mais je pense que l'article est plus précis, de deux États coexistant côte à côte est morte depuis des années. Voilà. À une époque, on y a cru, ça. Hein. Personne, pourtant, n'a d'autres solutions à proposer. Reste donc, quoi ? La peur et la haine. Devant l'horreur de telle scène, on aimerait écrire autre chose, quitte à faire semblant de croire la paix possible. La lucidité nous l'interdit. Cette guerre va se poursuivre. Voilà. Voilà. On lira ça. Et je lirai vos commentaires, bien sûr. Et puis, alors, j'ai deux, trois articles sur le reste de l'actualité quand même, à la fin, voilà, pour changer un petit peu les idées. Tiens, celui-là, je l'ai en double. C'est comme les cartes Pokémon, donc je supprime. Et puis, mais avant d'aller voir ces quelques articles sur il y a un peu de sport, il y a un peu de rugby, puisqu'on arrive au quart de finale, là, on ira aussi lire le Monde de ce soir, hein, qui est sorti, pour voir s'il y a de nouvelles infos, notamment les bilans qui évoluent, pourquoi le Hamas a décidé de défier Israël. Voilà. Et puis, je vous lirai, on ira voir les dernières infos. Voilà un petit peu ce dont on va parler ce soir. C'est un sujet compliqué, mais bon, on a l'habitude ici. Hein. On a l'habitude. Voilà. Et je vois, pardon, hein, je ne veux pas vous flatter, mais je vois la qualité du chat, là. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'endroits où on puisse parler de choses aussi sensibles de façon aussi, comment dire, alors apaiser n'est pas le mot, hein, mais chacun fait des efforts, même si vous n'êtes pas d'accord entre vous, pour essayer, sinon de se comprendre les uns les autres, en tout cas de réussir à échanger, quoi. Voilà. Donc ça, je suis assez fier de ce qu'on a réussi à créer ensemble, quoi. Faisavo, merci beaucoup pour le 18e mois d'abonnement. Rial 2188, merci pour le 9e mois. Kerigana, merci encore pour le 13e mois. Je lis un ou deux messages et on commence cette revue de presse. J'aime bien, comme le dit Cécile Blade, parler de choses sensibles de façon sensée. Enfin, de faire un effort, quoi. Sharon, le gros kick écrit, il n'est pas le seul. Hein. Sur les chaînes d'infos en continu, le sujet est traité de façon manichéenne, pas assez pédagogique et très dans l'émotionnel. Vous connaissez ma conviction là-dessus. Moi, je ne pense pas que la chaîne d'infos en continu soit le meilleur média pour comprendre les choses complexes. Une info chasse l'autre. Voilà, le temps télé est un temps court. Une interview où on a le temps en télé, c'est 3 minutes, c'est 4 minutes, c'est 5 minutes. C'est pas assez, en fait, sur des sujets aussi complexes que ça, quoi. Pour moi, le meilleur support, vous le savez, c'est la presse écrite. C'est des articles qui sont plus longs, qu'on prend le temps de lire. On peut lire plusieurs articles de différents médias sur le même sujet pour voir un petit peu les différents regards. Bon, pour moi, c'est le meilleur média possible, surtout sur des sujets aussi complexes que ça, quoi. De toute façon, même s'il y a d'excellentes choses en télé, l'info dans le journal, c'est d'abord la prime à l'image, et même si parfois une image dit beaucoup plus que plein de mots, l'image c'est aussi l'émotion, d'abord l'émotion, une image qui frappe, et c'est pas forcément d'abord la réflexion, quoi. Il y a Pouka qui nous dit un petit gentil message. Il nous dit merci pour ce petit récap historique. Ouais, il a un peu claqué au sol, mon récap historique. Moi, j'aimerais vous proposer quelque chose d'un peu plus carré. Je vais essayer de trouver quelque chose de plus carré que mon petit sentiment à moi, là. Il y a Pouka qui dit, quand on voit le chat, on voit que beaucoup de personnes n'y comprennent rien. Mais c'est un sujet complexe. Hein. C'est un sujet tellement complexe. C'est pas si mal résumé par Hubert Lafleur, je trouve. C'est pas si mal résumé, je trouve, par Hubert Lafleur, qui écrit « Je ne comprends pas pourquoi on qualifie ce conflit d'incompréhensible alors qu'il s'agit de deux peuples divisés par leur religion et leur culture qui se battent pour un territoire. Territoire quitté par les Juifs, donc il y a très longtemps, puis arbitrairement redécoupé et volé aux Palestiniens pour réparer la persécution, l'Holocauste, faite aux Juifs. » C'est comme tout résumé, c'est un résumé, mais c'est pas faux. Mais c'est pas faux. Alors, pourquoi pas? Il y a Matisse, pardon, hein. Il y a Matisse qui me dit qu'il y a une vidéo d'Hugo Décrypte qui est très claire sur le sujet. Je veux bien le croire. J'apprécie le travail d'Hugo. Alors si GG à lui, il a réussi en une vidéo à nous résumer le conflit israélo-palestinien, je dis bravo. Je la trouve où? Elle est sur sa chaîne YouTube ou pas? Comment j'ai trouvé ça? Attends. Vidéo, peut-être dans les dernières sans doute? Non, même pas. Là, j'ai un truc sur Sarko. Oh là là. S'il y a peut-être autre chose là. Où est-ce que je vais trouver ça? Peut-être si je tape Hugo Décrypte Proche-Orient? Bon, pourquoi pas, hein? Elle a 1 ou 2 ans? Mais elle, ouais, de toute façon, le conflit dure depuis tellement longtemps, elle sera toujours valable. Hein. Oh, il y a 2 ans. Ouais. Ah, elle dure 16 minutes. Elle dure 16 minutes. Cette vidéo t'explique le conflit historique entre Israël et la Palestine. Vous voulez qu'on fasse ça? Je l'ai, là.
Cette vidéo qui...
On regarde? T'en pensais quoi? Bon, pour le coup, moi, je suis pas trop pour le React quand on n'a pas l'autorisation du créateur de contenu. Mais là, je pense que Hugo ne s'en formaliserait pas, quoi. On est sur une tentative de compréhension. Il ne s'agit pas de lui piquer son contenu, bien sûr. Voilà. Regardez, elle est là. Je vous mets le lien dans le chat pour que vous puissiez la regarder, d'ailleurs. La tête reposée. Mais on peut la regarder, en vrai. Tenez, je vous la mets là. C'est la vidéo d'Hugo. Voilà. 16 minutes, en vrai. Bah, c'est long, mais prenons-les. Peut-être qu'on va justement y voir un peu plus clair. Et c'est plus important que de se laisser envahir par l'émotion, quoi, sur ce sujet-là. On regarde? Ok. Allez, c'est parti, Hugo, let's go.
Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible le conflit israélo-palestinien. Avec toute l'équipe, on a beaucoup travaillé ces dernières semaines pour publier cette vidéo qui, on l'espère, répondra à un maximum de vos questions. Gardez en tête que c'est un sujet qui est extrêmement complexe, évidemment, donc on ne pourra pas traiter toutes les dimensions de ce sujet, mais on va en fait se pencher sur les éléments principaux. Et si c'est du coup une vidéo qui vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube Hugo Décrypte pour ne pas louper les vidéos suivantes qui arrivent. Alors, pour comprendre les tensions actuelles, on est obligé de revenir au moins 100 ans en arrière.
Ok, 100 ans en arrière, ça nous emmène où, là? C'est le début du sionisme?
À la fin du 19e siècle.
Je pense que c'est ça, c'est le début. Je crois qu'il va parler du début de ce qu'on a appelé le sionisme, je pense. Hein.
Il n'y a pas d'Israël, mais par contre, il y a bien la Palestine, une province de ce qui s'appelait l'Empire Ottoman, et où habite à ce moment-là une population arabe composée de 80% de musulmans environ, 10% de chrétiens et 10% de juifs. Il faut savoir qu'au même moment, en Europe, dans de nombreux pays, l'antisémitisme est très présent, les juifs sont persécutés et certains vont donc fuir vers la Palestine. Pourquoi en Palestine et pourquoi pas autre part? Eh bien, c'est un territoire qui est très symbolique pour les juifs car il correspond, selon la tradition juive, à la terre promise par Dieu à Abraham, le père du judaïsme, et à ses descendants. C'est donc à cette période que va commencer à naître un mouvement. Ce mouvement, c'est ce que l'on appelle le sionisme. Voilà. Concrètement, le sionisme, c'est quoi? C'est un mouvement politique qui a pour objectif de donner aux Juifs un territoire national dans la région où se trouve la Palestine. On avance un peu dans l'histoire.
Bon, c'est clair, hein, voilà. Les Juifs persécutés bien avant la Seconde Guerre mondiale, hein, l'antisémitisme présent dans de nombreuses parties du monde, notamment en Europe, et donc naissance du sionisme, un mouvement politique visant à créer un pays, un État où les Juifs pourraient vivre en sécurité et en paix, quoi. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
On est désormais en 1914. C'est en 1914 qu'éclate donc la Première Guerre mondiale. La Grande-Bretagne rentre en guerre contre l'Empire ottoman, qui contrôle donc à ce moment-là la Palestine. Et en plein conflit, eh bien, le gouvernement britannique promet aux Juifs de son pays un foyer pour eux directement en Palestine. En 1918, la Première Guerre...
Ah, je savais pas qu'il y avait une promesse britannique, ça. Alors ça éclaire un petit peu ce qui va se passer après la Seconde Guerre mondiale quand même. Donc là on est pendant la Première Guerre mondiale. Récoutons ça.
Directement en Palestine. En 1918, la Première Guerre est en plein conflit et la Bretagne rentre en guerre contre l'Empire ottoman qui contrôle donc à ce moment-là la Palestine. Et en plein conflit, eh bien, le gouvernement britannique promet aux Juifs de son pays un foyer pour eux directement en Palestine. En 1918, la Première Guerre mondiale prend fin, l'Empire ottoman s'effondre et deux ans plus tard, c'est donc le Royaume-Uni qui prend le contrôle de ces territoires palestiniens. 180 000 juifs s'installent alors en Palestine entre 1929 et 1939. Et à ce moment-là, un certain nombre d'Arabes de la région, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, voient cette arrivée plutôt d'un mauvais œil.
Bah ouais.
Il y a donc une résistance qui va s'organiser et des révoltes qui vont se succéder. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate, 6 millions de juifs sont tués par les nazis. L'immigration juive vers la Palestine s'accentue et avec ça, eh bien, les tensions entre juifs d'un côté et arabes de l'autre côté ne s'arrêtent pas dans les années qui viennent. En 1947, pour tenter de calmer la situation qui est logiquement très tendue et complexe, eh bien l'Organisation des Nations Unies va adopter à ce moment-là un plan. Et ce plan, en 1947, il prévoit la création sur le territoire palestinien d'un État juif, Israël.
Donc là, quelqu'un me demandait tout à l'heure, mais qui est à l'origine de cette décision de créer un État juif, quoi, l'État d'Israël ? Bon, bah, vous l'avez entendu, ce sont les Nations Unies.
Et d'un État arabe, la Palestine.
Voilà, et on voit le découpage là. Imaginez entre donc en rose la création d'un État d'Israël et en jaune, ça c'est le projet de 47, un État palestinien. Of the Dutch Committee for Palestine
was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Ce plan de l'Organisation des Nations Unies de création comme ça de deux États est accepté par la communauté juive de Palestine, mais il est rejeté par la communauté arabe de la région.
Voilà, ça commence mal.
À cette époque, en fait, en Palestine, vivent 1 300 000 Arabes et 600 000 Juifs. Or, dans ce plan, eh bien, l'État d'Israël doit récupérer 55% du territoire avec donc une population pourtant plus faible. Dans la communauté arabe musulmane à ce moment-là, c'est donc...
Ouais, vous êtes plusieurs à dire, pardon pour les termes, que l'ONU fait un peu de la merde, quoi, voilà. Hein, un plan qui pue, disent certains, ils ont fait ça à la va-vite, voilà.
Le sentiment d'une profonde injustice qui est présente, une injustice puisqu'ils estiment qu'on leur vole leur terre. À ce moment-là, donc, les désaccords sont nombreux, rien n'est acté, et pourtant, quelques mois plus tard, le 14 mai 1948, Ben-Gourion...
Alors, quelqu'un pose la question, pourquoi ils ont décidé que ce serait ici et pas ailleurs ? Parce qu'en fait, c'est la Palestine, et que c'est la terre promise pour les Juifs dans leur histoire, dans la tradition, quoi. Voilà.
Un des leaders du mouvement sioniste proclame la création de l'État d'Israël sans l'accord donc des autres pays arabes de la région. Au lendemain de la création de l'État d'Israël en 1948, l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, le Liban ou encore la Syrie déclarent la guerre à Israël car ils n'approuvent pas tout simplement
48.
La création de leur État. Cette guerre, c'est ce que l'on appelle la première guerre israélo-arabe. Elle a duré de 1948 à 1949. Et l'objectif de ces pays, c'est de reprendre la main sur les territoires attribués à Israël pour faire en sorte de créer une Palestine arabe. Au bout d'un an, eh bien, Israël va gagner la guerre et annexer la...
Alors, de mémoire, dans mes souvenirs, les moyens militaires des pays arabes là, de la région, notamment d'Israël, étaient supérieurs à ceux de tout jeune État israélien, et contre toute attente, Israël va gagner cette guerre, cette première guerre contre les pays arabes qui donc déclenchent ce conflit.
Moitié ouest de Jérusalem, une ville qui est donc pourtant,
pardon,
je le disais,
hop,
à l'instant,
un peu en arrière, c'est important ce que tu viens de dire.
Pour faire en sorte de créer une Palestine arabe. Au bout d'un an, eh bien, Israël va gagner la guerre et annexer la moitié ouest de Jérusalem, une ville qui est donc pourtant, je le disais...
Vous avez entendu ? Donc en fait, une des conséquences de cette guerre, c'est que Israël va annexer des territoires... Alors Hugo parle de la moitié occidentale, c'est ça ? Ouest de Jérusalem, à mon avis, d'autres territoires. Et donc que cette partie... réservée aux Palestiniens qui étaient déjà jugée insuffisante par les Palestiniens et les Arabes, en fait elle va même se réduire. En même temps, Israël a gagné la guerre, donc en général les vainqueurs se servent un peu, quoi.
À l'instant sous contrôle international, mais donc ce territoire va être annexé par Israël, ainsi que d'ailleurs une grande majorité des territoires qui avaient été attribués aux Palestiniens.
Voilà, c'est ce que je vous disais, vous voyez, là apparaissent les zones annexées par Israël après cette guerre, c'est-à-dire que ce qui était censé être cet État palestinien déjà jugé trop petit en termes de territoire par les Palestiniens et les Arabes, en fait va être réduit encore à l'issue de cette guerre perdue par les pays arabes en 1948.
Par l'Organisation des Nations Unies en 1948. Le résultat, c'est quoi ? Eh bien, face à cette nouvelle perte très importante de territoire, plus de 700 000 Palestiniens vont quitter leur foyer et s'exiler dans les pays arabes voisins. Il y a notamment la Jordanie, la Syrie ou encore le Liban. Et cet exode massif, il a un nom, la Nakba, ce qui veut dire donc « catastrophe » en arabe. Bref, beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions au fil de ces années,
ah,
mais
c'est
pour
ça,
résumer, à la fin de la guerre...
J'avais oublié ce que c'était la Nakba, la catastrophe. Il explique bien, Hugo.
La Nakba...
Attendez, c'était ça donc ?
Dans les pays arabes voisins, il y a notamment la Jordanie, la Syrie ou encore le Liban. Et cet exode massif, il a un nom, la Nakba, ce qui veut dire donc catastrophe en arabe. Bref, beaucoup de changements.
Donc on parle de centaines de milliers de personnes, c'est ça ce qu'il disait Hugo ? De Palestiniens obligés donc à l'issue de cette guerre de quitter leur territoire, des déplacés, des réfugiés, et donc de nouvelles tensions, vous voyez ? De nouvelles tensions, forcément. D'où j'avais oublié ce terme de Nakba catastrophe.
Beaucoup d'évolutions au fil de ces années, mais pour résumer, à la fin de la guerre, en 1949, il ne reste désormais que deux territoires qui ne sont pas contrôlés par Israël. Ces deux territoires, c'est la bande de Gaza, qui est sous contrôle de l'Égypte.
Hop, ça c'est intéressant, voilà, la bande de Gaza, on en parle en ce moment, ouais. Et on voit donc ce qui est censé être un territoire palestinien, un État palestinien, déjà, et en deux entités, deux enclaves qui ne communiquent pas entre elles déjà. C'est quand même fou, quoi.
Et la Cisjordanie.
Voilà, la bande de Gaza, la petite bande en bas à gauche, là, la Cisjordanie, là, la grosse poche jaune.
Qui est contrôlée par la Jordanie. Malheureusement, cette première guerre n'est que le début du conflit israélo-arabe, et si on avance un peu dans le temps, en 1967, une nouvelle guerre éclate entre Israël et ses voisins, et c'est la guerre des six jours. Alors, comme son nom l'indique...
Que va, je crois, encore gagner Israël.
Dit que la guerre des six jours, elle va durer seulement six jours. Jusqu'ici, c'est assez logique, mais en l'occurrence, le bilan est très très élevé. On compte environ 750 morts côté israélien et plus de 20 000 morts du côté des pays arabes. Israël va gagner la guerre et à ce moment-là, prendre le contrôle de plusieurs territoires.
Deuxième conflit israélo-arabe, deuxième guerre israélo-arabe, encore gagnée par Israël. Et donc, c'est ce que Hugo s'apprête à dire. De nouveaux territoires, du coup, Israël qui prend le contrôle de nouveaux territoires, quoi. Et donc va créer de nouvelles tensions, quoi. Voilà, comme le dit Néron, ce qui a entraîné de nouvelles annexions, et le schéma se dessine exactement.
Territoire. Ces territoires repris par Israël, vous les voyez donc actuellement à l'écran, il y a la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï qui étaient jusqu'ici contrôlées par l'Égypte. Il y a aussi le plateau du Golan qui était contrôlé par la Syrie. Et enfin, il y a aussi la Cisjordanie qui était contrôlée par la Jordanie, et donc là que Israël reprend à nouveau. Par ailleurs, Israël va accentuer sa mainmise sur la ville de Jérusalem.
C'est là que je crois qu'on commence à parler des territoires occupés palestiniens, je crois que c'est là, hein, sans doute.
Parce que le pays va occuper et annexer Jérusalem-Est et va faire voter une loi pour instaurer une réunification des deux côtés de Jérusalem, Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest, pour en faire la capitale de l'État d'Israël. 1967, guerre des six jours. L'autre date à retenir, c'est donc 1973, la guerre du Kippour. Elle va éclater cette fois-ci entre Israël d'un côté et et une alliance entre l'Égypte et la Syrie de l'autre côté. Et en fait, l'Égypte et la Syrie veulent tout simplement récupérer les territoires qu'ils avaient perdus depuis la guerre des Six Jours. Le truc, c'est que Israël va à nouveau gagner la guerre avec plus de 20 000 pertes du côté arabe contre environ 2500 à 7500.
Alors, quelque chose que Hugo ne dit pas et que vous êtes quelques-uns à évoquer, c'est le fait qu'Israël, dans ses guerres israélo-arabes, est soutenu par les Américains. Je ne sais pas dans quelle mesure ils le sont, s'ils le sont massivement ou pas. Il y a par exemple Julien qui écrit dans le chat « Les Israéliens gagnent le soutien des Américains. On oublie de dire que durant la guerre froide, les pays arabes faisaient partie de l'axe soviétique. » Si jamais ça n'est pas... vous êtes plusieurs à dire massivement. Si jamais ça n'est pas dit par Hugo, on ira checker cette info pour comprendre quelle était la réalité, la nature du soutien américain à Israël pendant ces guerres israélo-arabes. Il en parle après, me dit Sunsweet. À mon avis, il va en parler effectivement.
Côté israélien, mais donc beaucoup moins. Mais en l'occurrence, c'est important de comprendre que à ce moment-là, les deux pays arabes ne sont pas complètement perdants, puisque avec cette guerre, ils ont créé un climat d'incertitude en Israël, et tout ça va pousser d'une certaine façon Israël à dialoguer avec les pays voisins. Conséquence, Israël va rendre une partie du plateau du Golan à la Syrie en 1974, puis évacuer peu à peu le Sinaï pour l'Égypte en échange de la promesse égyptienne qu'il n'attaque plus Israël. Et quant à la bande de Gaza et la Cisjordanie, eh bien à ce moment-là, elle reste occupée militairement par Israël. La Cisjordanie et la bande de Gaza sont donc occupées militairement par Israël à ce moment-là, en 1974, et c'est dans ces territoires occupés qu'ont lieu les différentes intifadas, ce qui signifie soulèvement en arabe. Pour faire simple, ce sont donc des mouvements d'opposition des Palestiniens contre l'occupation israélienne. Il y a donc une première intifada en 1987, nouvelle date à retenir qui est assez importante, et cette première intifada prend fin en 1993 avec ce que l'on appelle les accords d'Oslo. Ces accords d'Oslo en 1993, ils vont faire naître une sorte de lueur d'espoir puisque, eh bien, le gouvernement...
Donc on a vu Arafat, le président Arafat, et côté israélien, les accords d'Oslo, c'est avec qui ? Il le dit pas, Hugo, c'est qui déjà ? Le premier ministre israélien qui signe les accords d'Oslo, on pourra les vérifier, mais vous l'avez dans le chat en deux secondes, ça, je le sais. C'est Yitzhak Rabin, merci à vous.
Le gouvernement israélien va reconnaître l'organisation de libération palestinienne comme représentant du peuple palestinien, et de l'autre côté, eh bien, l'organisation de libération palestinienne va reconnaître le droit d'Israël d'exister. Le problème, pour faire vraiment très simple, c'est que cet accord ne va jamais vraiment exister, puisque en Israël, eh bien, les mouvements de droite vont s'opposer à cet accord, et du côté de la Palestine, eh bien, le mouvement islamiste palestinien du Hamas...
Pause. On voit quand même que dans cette histoire de tension, enfin, tension, le mot est faible, entre Israéliens, Palestiniens et Arabes, il y a un moment, quand même, des gens qui essayent de se tendre la main et de trouver un accord, de mettre... en place la paix, quoi. Et là, Hugo nous explique que ces accords d'Oslo ne vont jamais réussir à s'appliquer en raison notamment de l'opposition en Israël des mouvements de droite, hein, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui en Israël, le gouvernement est le plus à droite de l'histoire d'Israël, et du côté israélien, donc il y a l'OLP, l'Organisation de Libération de Palestine, qui, sauf erreur de ma part, est l'organisation de Yasser Arafat. Et de l'autre côté, il y a le Hamas, qui aujourd'hui est qualifié d'organisation terroriste par une grande partie des communautés internationales. Je ne sais pas comment Hugo en parle, je réécoute.
Israël d'exister. Le problème, pour faire vraiment très simple, c'est que cet accord ne va jamais vraiment exister, puisque en Israël, eh bien, les mouvements de droite vont s'opposer à cet accord, et du côté de la Palestine, eh bien, le mouvement islamiste palestinien du Hamas s'oppose lui aussi à tout ça. Résultat, il y a donc une seconde intifada qui se déroule. Elle a lieu entre 2000 et 2005, et ça a été la plus meurtrière. Plus de 3000 morts côté palestinien, et plus de 1000 côté israélien, notamment à cause d'attentats suicides palestiniens et de frappes aériennes de l'armée israélienne. Alors on entend beaucoup parler dans l'actualité de la bande de Gaza. Pourquoi ? Eh bien c'est très simple. En 2005, l'armée israélienne va finalement quitter cette bande de Gaza. Et 2 ans plus tard, le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par beaucoup de pays, dont l'Union européenne, va prendre le pouvoir sur ce territoire palestinien.
Donc ça c'est un truc important de savoir que là dans la bande de Gaza, la vidéo a 2 ans mais encore aujourd'hui, il n'y avait plus de soldats israéliens hein, puisque l'occupation par Israël de la bande de Gaza n'avait donné aucun résultat et donc laisse le territoire aux Palestiniens et si je comprends bien c'est donc le Hamas qui en prend le contrôle.
Par beaucoup de pays dont l'Union Européenne va prendre le pouvoir sur ce territoire palestinien. Un blocus est alors mis en place par Israël sur la bande de Gaza. Ce blocus, il a pour objectif de limiter l'importation de produits sur le territoire ou encore de limiter l'alimentation en électricité et en eau pour les habitants de Gaza. Et les conséquences d'un point de vue humanitaire sont très importantes. On compte notamment un chômage qui est très important aujourd'hui sur ce territoire. Dans les années qui vont suivre, il va y avoir donc des oppositions régulières au centre de Gaza avec d'un côté...
Alors certains commentent hein, cette situation, on appelle ça un ghetto, dit Tété de Jay, des Palestiniens qui sont privés parfois des biens les plus élémentaires pour vivre, un chômage extrêmement important. Alors je vous le disais très modestement, quand j'étais jeune journaliste, j'avais passé une semaine de vacances, j'avais décidé d'aller voir là-bas et j'ai eu la chance de pouvoir parler avec des Israéliens, parler avec des Palestiniens, aller dans les territoires et j'avais passé notamment à Oudot Checkpoint et j'avais rencontré une famille palestinienne qui m'avait raconté son quotidien. Et son quotidien, j'avais parlé notamment avec des jeunes Palestiniens, c'était effectivement un quotidien sans liberté. Un quotidien où pour pouvoir bouger d'un endroit à l'autre, il fallait passer par des checkpoints contrôlés par des soldats israéliens qui vous fouillaient, où il y avait parfois des attentes extrêmement longues. Voilà. Donc vous imaginez si vous deviez aller bouger pour aller travailler ou pour étudier. Enfin voilà. Enfin, j'avais bien compris en quelques jours que j'avais passé là-bas que la vie était juste, sinon un enfer, mais un truc extrêmement limité, quoi. Et que pour ces jeunes Palestiniens avec qui je parlais, qui étaient issus d'une famille qui semblait avoir un petit peu de moyens quand même, la seule issue possible, c'était de partir, en fait, de partir à l'étranger, quoi. Voilà.
Côté le Hamas et de l'autre.
Et dans le même temps, puisque j'étais allé voir du côté israélien aussi, j'avais rencontré des jeunes Israéliens qui passaient leur temps, puisque c'était l'époque où il y avait beaucoup d'attentats aux arrêts de bus israéliens, dans les cafés israéliens, dans les discothèques israéliennes, et j'avais rencontré une jeunesse israélienne qui vivait avec la peur au ventre que à leur arrêt de bus, au café, ça leur pète au nez n'importe quand. Xavier Yvon, qui était journaliste d'Europe 1, qui gentiment m'avait promené un petit peu à Jérusalem, puis j'avais revu un autre pote qui s'appelait Renaud qui était journaliste aussi pour des médias suisses et belges qui vivait à Tel Aviv et par exemple on passait devant un café et il me disait bah voilà là ça a pété la semaine dernière par exemple, voilà, et voilà ce que vivaient les deux côtés quoi.
L'autre côté, l'armée israélienne, il y a une première guerre en 2008-2009, une seconde en 2012 ou une troisième encore en 2014. Et sur ces 3 guerres de Gaza, on compte environ 85 morts côté israélien et plus de 3500 morts côté palestinien.
Bon, j'avais posé la question, pourquoi il y a ce différentiel de morts de chaque côté? C'est évidemment l'inégalité flagrante des moyens militaires. Hein, peut-être que Hugo va parler justement du soutien, vous parlez du soutien américain à Israël, peut-être qu'il va en parler ici.
Cette question du décalage entre le bilan sur le nombre de décès, c'est une question qui est importante. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de morts côté palestinien que côté israélien lors de ces conflits? Des milliers de roquettes sont tirées depuis Gaza vers Israël, des roquettes donc qui viennent du Hamas, mais Israël va en fait intercepter un très grand nombre de ces roquettes grâce au Dôme de Fer, un système d'interception des roquettes qui a été mis en place en 2011.
Là, Hugo va un tout petit peu vite parce que là, on passe directement aux roquettes, mais Je suis pas sûr que le Hamas ait été en situation de tirer des roquettes très 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 tôt quand même. Il y a quand même eu une phase où c'était quand même pierre contre char, quoi. Donc là, on passe directement aux roquettes d'un côté et le dôme de fer, le système antimissile israélien de l'autre. Mais entre les deux, je crois qu'il y a quand même eu une période assez longue où d'un côté c'était les chars et de l'autre les pierres, quoi. L'intifada, c'était un peu la révolte des pierres quand même. Voilà, bon, on peut pas. Après, c'est une vidéo de 16 minutes, ça peut pas tout dire.
En gros, ce dôme de fer repère et neutralise les missiles en plein air et les empêche ainsi donc d'exploser en Israël. Ce dôme de fer, il est très efficace, mais il est aussi très coûteux puisque pour chaque roquette envoyée par le Hamas et qui est stoppée par Israël, il faut compter environ 50 000 euros par utilisation. Et donc c'est quelque chose de très coûteux. Mais en l'occurrence, eh bien, Israël est allié aux États-Unis et c'est bien les États-Unis qui financent en partie ce dôme de fer. C'est d'ailleurs un élément qui est beaucoup avancé par le Hamas pour expliquer cette différence sur le bilan, le fait que Israël est beaucoup plus équipé tout de même et notamment soutenu par les États-Unis aujourd'hui. Alors quand on écoute les dirigeants israéliens concernant cette différence de bilan et le nombre de morts plus fort et plus important disons côté palestinien, eh bien Israël va répondre que c'est surtout de la faute du Hamas qui utiliserait ce qu'ils appellent des boucliers humains. Très concrètement, hein, les autorités israéliennes accusent le Hamas de cacher les armes, les lancements de roquettes, etc. à proximité de la population palestinienne, par exemple dans des écoles, des maisons ou même des hôpitaux. Et à cela, de son côté, le Hamas nie ces accusations et certains spécialistes estiment qu'il serait de toute façon difficile de limiter les victimes de frappes israéliennes dans une zone aussi densément peuplée que Gaza. Autrement dit donc, selon beaucoup de spécialistes, s'il y a des frappes israéliennes sur Gaza, les conséquences sont quasi inévitablement des décès aussi au sein de la population de la zone.
Question qui est posée par plusieurs dans le chat, pourquoi les États-Unis soutiennent à ce point Israël? Alors quelqu'un disait tout à l'heure, parce que les pays arabes du temps de l'Union soviétique étaient des alliés de l'URSS, donc je ne sais pas si c'est vrai, on va le vérifier, et aussi peut-être parce qu'il y a une communauté juive importante aux États-Unis tout simplement, et que ce sont des électeurs, et que par capillarité, les États-Unis ont soutenu Israël. Je pense que ça peut être une raison, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme Hugo n'en parle pas, on va essayer de trouver quand même l'info. On va essayer de trouver une source un peu carrée. C'est la difficulté. Je trouve un truc intéressant qui est costaud là. Alors je lis quelques commentaires dans le chat qui me semblent pertinents. Israël est une démocratie, ben c'est le système politique israélien, aligné sur les idées occidentales, contrairement à ses voisins, c'est une raison. C'est ce que dit l'Esteban aussi. Israël est vu comme un avant-poste de la démocratie au Moyen-Orient par les États-Unis. L'Égypte, donc adversaire d'Israël, était sous l'aide de Moscou, ennemi des États-Unis jusqu'à la guerre du Kippour. Ok, vous êtes plusieurs à mettre en avant cette idée qui est intéressante, un argument souvent évoqué, celui de la représentation occidentale d'Israël au Moyen-Orient. Je vous lis, hein. Je vous lis. Là, j'avais trouvé un sujet intéressant. Alors déjà, regardez, là j'ai un livre en fait, c'est le résumé d'un livre qui semble être signé par un universitaire Ouais, la revue historique des armées. Non, c'est un article. Dans la revue historique des armées, un article de 2008, Israël-États-Unis, de la reconnaissance historique à l'alliance stratégique. C'est assez intéressant. L'alliance entre les États-Unis et l'État d'Israël est récente. La reconnaissance de l'État hébreu en mai 48 n'augurait nullement d'une attente ultérieure. Donc, a priori, on n'attendait pas en 48 à ce que les États-Unis soutiennent vraiment Israël et répondaient à des considérations de politique intérieure américaine et non à un calcul géostratégique lié à la situation internationale au Moyen-Orient. Ce sont les circonstances liées à la conjoncture internationale, la compétition naissante entre l'Union soviétique, on en parlait, et l'Amérique qui révéla l'importance stratégique de l'État d'Israël. Le second mandat du président Eisenhower, à la fin des années 50, marque de ce point de vue une étape importante dans le rapprochement entre les deux pays. Donc ce n'est pas automatique, ce n'est pas tout de suite après la création de l'État d'Israël. Ce sont les années 80 qui marquent cependant l'apogée de l'entente américano-israélienne. Ok. Je continue à chercher, j'aimerais trouver un truc un peu. C'est pas mal, mais. Ah. Alors avant de vous lire des trucs, je cherche un peu la source quand même, parce que je veux pas lire des dingueries. C'est un bouquin qui s'appelle Pourquoi l'Amérique soutient Israël? Non, c'est une page de blog. Je la lis avant de vous la partager, hein. C'est un article sur un article d'une sur un, sur un livre d'une chercheuse française, Célia Belin, sur le sujet. Bon, là, c'est une analyse, pour le coup, c'est une analyse religieuse. Ah, c'est intéressant. Bon, je pense qu'on pourrait passer 3 heures rien que sur le pourquoi du soutien américain à l'État d'Israël. Alors, je vous la fais courte, mais l'article n'est pas inintéressant. Comment expliquer l'indéfectible soutien que l'Amérique apporte à Israël, qui traverse les gouvernements, les péripéties? L'explication traditionnelle, la puissance du lobby juif, bah, c'est ce que je disais, c'est le fait que les juifs sont présents aux États-Unis, les juifs, bah, ce sont des électeurs et donc. Tout candidat à la présidentielle américaine doit prendre en compte ce vote, quoi. L'explication traditionnelle que j'évoquais, donc la puissance du lobby juif, est courte, bien courte. Les juifs ne sont que 6 millions aux États-Unis et leur inclination les porterait plutôt vers la gauche et le parti démocrate. C'est donc cette chercheuse française qui fait ce constat. Non, il faut chercher ailleurs, dit-elle, cette chercheuse française, les raisons de cette allégeance dans les étranges croyances de la droite religieuse américaine. Ça, c'est étonnant. Qu'une jeune chercheuse française, Célia Belin, explore attentivement dans un livre. Les chrétiens, donc cette droite religieuse américaine, les chrétiens fondamentalistes, évangélistes, protestants, néo-évangélistes, adventistes, etc., hein, la majorité morale, représentent un bon tiers de la population américaine. Donc là, on est au-delà des 6 millions de juifs. Et cet ensemble disparate partage au moins une certitude, la Bible est d'émanation strictement divine. Donc c'est des gens qui pensent que ce qu'il y a dans la Bible, c'est. C'est vrai, tout ça, il faut le suivre à la lettre, et qu'elle doit être lue littéralement. Voilà, vous voyez, j'anticipais à peine, mais c'est ça. Précepte sur précepte, règle sur règle. Bah, la Bible, c'est la Bible, quoi. Or, au sujet d'Israël, que dit la Bible? Eh bah, il n'y a aucune ambiguïté. Dieu a donné aux Juifs, et c'est vachement intéressant, hein. Attention, lobby dans ma bouche, c'est pas du tout. Lobby, c'est le mot de l'article. Lobby, ça n'est pas forcément un terme négatif, hein. Aux États-Unis, les lobbies ont pignon sur rue, hein. Les lobbies des entreprises, des groupes de pression, ils ont des bureaux, c'est tout à fait officiel. Il n'y a qu'en France qu'on a une connotation très négative du lobby. Là, quand j'évoque le lobby des électeurs juifs, ce sont les électeurs juifs aux États-Unis qui peuvent éventuellement peser sur un choix de politique parce qu'ils représentent 6 millions d'électeurs. Soyez pas fous avec ce terme de lobby, hein. C'est en France qu'on est fou avec les lobbies. Donc, pardon, je reviens à la Bible parce que c'est intéressant. Dieu, dans la Bible, a donné aux Juifs un territoire s'étendant du Nil jusqu'à l'Euphrate, dont Jérusalem sera la capitale éternelle. Donc, cette chercheuse française dit que le soutien américain à Jérusalem, il vient notamment pour des questions religieuses, parce qu'en gros, les conservateurs chrétiens américains trouvent que c'est tout à fait normal que les Juifs aient un État. Puisque c'est dans la Bible. Ok. Donc il y aurait une dimension religieuse. Comme d'habitude, la religion, ça fout bien la merde. Hein, excusez-moi. C'est pas inintéressant, hein? Allez, on reprend un petit peu la vidéo de. de l'ami Hugo. On a compris quand même à travers cette petite parenthèse que le soutien américain à Israël se nourrit de plusieurs choses. Le fait que des pays arabes étaient donc proches de l'Union soviétique, ennemis des Américains, que Israël représentait une forme de régime démocratique assez proche des standards occidentaux, donc comme voilà, une espèce de tête de pont du modèle occidental dans la zone, les raisons religieuses qu'on vient d'évoquer, les raisons géopolitiques bien sûr, puisque du coup ça crée un allié dans une région qui peut éventuellement relayer son influence. Ouais, ça fait déjà 4 raisons quoi. Bon, on avance un petit peu, hein. Donc là, c'était une vidéo d'il y a 2 ans. Hein. Je vérifie la date, c'est important. Oui, il y a 2 ans. Pourquoi on en parle en ce moment ? Donc là, évidemment, c'est un petit peu daté.
Alors maintenant qu'on a vu le contexte très large et vu un peu l'évolution progressive de la situation, c'est quand même essentiel de comprendre qu'est-ce qui s'est passé récemment. Eh bien, la nouvelle flambée de violence que l'on a observée en mai a commencé tout simplement avec l'ordre d'expulsion de plusieurs familles palestiniennes de leurs maisons, des familles palestiniennes dont les maisons étaient situées dans le quartier de Jérusalem-Est. Je le disais tout à l'heure, l'est de la ville de Jérusalem est occupé et annexé par Israël, sauf que des familles palestiniennes y vivent toujours, et ces familles sont donc menacées d'expulsion par des Israéliens qualifiés de colons qui prétendent...
Ça aussi, ça a rajouté des tensions, bien sûr. La colonisation, c'est bien qu'Hugo en parle aussi, la colonisation des territoires palestiniens par des familles juives, quoi. Voilà. Pour des raisons idéologiques, quoi. En disant, bah voilà, ce qu'on va pas... Le territoire qu'on va pas choper par la guerre, quoi, on va les choper par la colonisation en nous installant, quoi. Bon, bah ça aussi, ça c'est très important.
Qu'il s'agit de leur territoire et qu'ils veulent s'installer à leur place. En fait, pour faire très simple, l'Organisation des Nations Unies s'oppose à ces menaces d'expulsion venant d'Israël contre ces familles palestiniennes. Ce sont d'ailleurs des menaces qui pourraient, d'après l'ONU, être considérées comme des crimes de guerre contre les Palestiniens. C'est donc après cet événement comme point de départ que se sont intensifiées les tensions ces derniers jours. Il y a eu environ 10 jours d'affrontements très violents.
Sauf erreur, hein, ces pratiques de colonisation juive là, sont vraiment des idées, des pratiques portées par la droite et l'extrême droite israélienne. Hein. Pensez bien que la société israélienne elle-même est divisée sur ces questions, hein, et qu'il y a des Israéliens qui dénoncent ces pratiques. Hein, voilà. Récemment, là, à la faveur d'une réforme de la Constitution, alors pas de la Constitution, parce qu'il n'y a pas de Constitution en Israël, pardon, mais récemment il y a eu une réforme qu'on dirait constitutionnelle chez nous, mais qui en gros, à l'initiative de Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, allait affaiblir le contre-pouvoir de la justice face à la toute-puissance de l'exécutif, bien une partie importante de la société israélienne qui s'est mise à manifester avec, vous savez, une partie importante de l'armée. Vous savez que l'armée, c'est une armée citoyenne, hein. Les jeunes israéliens et israéliennes doivent un service militaire très long et des périodes de réserve après très importantes pour faire fonctionner l'armée de cet État qui est en guerre depuis sa création, hein, depuis 1948, vous l'avez compris. Et donc là, récemment, vous avez eu ces derniers mois des Israéliens qui ont dit qu'ils ne voulaient plus faire leur période de réserve militaire parce qu'ils n'acceptaient pas la tournure que prenait le régime de droite, de droite et d'ultra-droite israélien. Donc il ne faut pas faire l'erreur de penser Israël et la société israélienne comme d'un tout. Au sein d'Israël, il y a également des tensions sur ces sujets.
Et un cessez-le-feu a été finalement conclu entre Israël et le Hamas le soir du 20 mai. Au bout de 10 jours, ces affrontements auront donc fait environ 230 morts côté palestinien, dont des enfants, et 12 morts côté israélien. Alors, vous l'aurez compris, les tensions sont toujours très présentes entre Israéliens et Palestiniens, et à l'étranger, on craint une reprise des affrontements à tout moment. Il faut bien comprendre qu'une part assez importante des pays du monde, dont les pays de l'Union Européenne, se disent favorables à une solution à 2 États, donc un État israélien et un État palestinien. Mais en fait, derrière ces mots, certains jugent que les gouvernements manquent de courage et de volonté pour réellement parvenir à la paix et parvenir à la création d'un État palestinien, en plus donc d'un État israélien. En tout cas, si cette vidéo vous a permis d'y voir un peu plus clair, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos vidéos suivantes. Évidemment, c'est impossible de résumer un conflit pareil en seulement 20 minutes, notamment en mettant le plus de nuances possible, mais ça me paraissait quand même assez essentiel de répondre à un certain nombre de questions et d'éclaircir certains points qui peuvent paraître assez flous aujourd'hui. Bref, du coup, sujet complexe qui mérite qu'on s'y penche encore davantage. Du coup, si ça vous intéresse, je vous mets en description des ouvrages, des documentaires, etc. qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas aussi à découvrir les autres vidéos postées sur cette nouvelle chaîne YouTube Hugo Décrypte, notamment la rencontre avec l'ex-directeur de la CIA, rien que ça. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.
Hugo le dit lui-même, hein, difficile de résumer en... Il dit 20 minutes, mais c'est 16 minutes et 20 secondes, un conflit aussi complexe. Voilà, il le reconnaît lui-même. Mais je trouve que comme le dit Nico Pradi dans le chat, ce que fait Hugo en 15 minutes là est un vrai, une vraie qualité de pédagogie et de clarté. Voilà. Donc vraiment GG à lui, bravo quoi. Et j'espère que je n'aime pas piller le contenu des autres, de faire du react sans l'autorisation. Là on s'est un peu improvisé ce react et j'espère qu'il n'en tirera pas ombrage, mais je trouve que c'est un super boulot quoi. Bravo. Terdrome02, merci pour le cinquième mois. Chopiti pour le Prime. La Zone Aéro, merci beaucoup. Un jour, on va se faire des trucs ensemble pour ce septième mois. Ryujac, merci pour le Prime. Faisavo, merci encore pour le 18e mois. Aerialé, Kirigana, je ne sais plus si je vous ai remercié. Je le fais. Bon, on a pris un petit peu le temps, mais ça me semblait bien hein, de faire cette mise en perspective avant d'aller voir les articles qu'on va évoquer maintenant et peut-être à la lumière un petit peu de cet éclairage, de ces infos. Hop, petite tablette, veux-tu, voilà, te reconnecter. Alors, tout à l'heure on a fait un petit sommaire, maintenant je vais vous lire tous les articles, hop, de la presse ce matin et ce soir avec Le Monde, et peut-être que justement la recontextualisation d'Hugo à l'instant va un petit peu nous aider. La tragédie des otages, article du Parisien ce matin. On va commencer par cet édito de Nicolas Charbonneau. Un édito, c'est un article où un journaliste donne son avis. Ah, ce ne sont pas des faits, c'est une analyse. Voilà, et voilà ce qu'il en pense. L'arme des lâches, c'est le titre. Le Hamas n'est pas une armée régulière, c'est une organisation terroriste, c'est une faction sans foi ni loi qui emploie l'arme des lâches, la prise d'otages. Depuis samedi, les images qui hantent les canaux de diffusion montrent le pire, la tuerie de masse, sans scrupules, les enlèvements sans discernement, souvent des femmes de tous âges, la terreur des enfants, mais il y a aussi ces corps disloqués, désarticulés, ces cadavres martyrisés et brandis comme des trophées ou piétinés sur lesquels crachent les terroristes et puis cette foule aussi, puisqu'on a vu des images qui le disaient, et puis cette foule qui se réjouit et se délecte de l'horreur, à peu près tout ce que l'être humain peut faire de pire. La dignité voudrait que l'on condamne sans chinoiser, là on parle des actes terroristes du Hamas, mais dans ce concert d'horreur, écrit le journaliste du Parisien, il est encore des voix odieuses qui considèrent que les terroristes font acte de résistance, qu'il est donc légitime de massacrer des femmes et des enfants, et renvoie dos à dos un État démocratique, Israël, et une organisation terroriste, le Hamas. Comment peut-on à ce point déshonorer le mot résistance quand on veut faire croire que les combattants du Hamas en seraient dignes ? Les masques tombent sans grande surprise du côté de certains élus de la gauche radicale, de LFI ou du NPA, qui condamnent du bout des lèvres, prétendant vouloir contextualiser pour mieux relativiser. Est-ce que cette dimension politique en France, elle est essentielle ? Est-ce que c'est... Je ne sais pas si, au vu de ce qui se passe, des centaines de morts de part et d'autre, les bisbilles politiques en France sur le sujet soient l'essentiel. Bon, effectivement, c'est un fait. Il y a eu des réactions de LFI, de certains élus LFI, qui ont provoqué des réactions, des condamnations du reste de la classe politique en France, à droite, au sein de la majorité, au sein également de la NUPES, y compris même au sein de LFI. Ces tensions, ces débats, ces polémiques, elles existent. Est-ce que c'est l'essentiel ? Je ne crois pas. Il y a Ferromagnetti qui dit « Je pense que c'est un sujet, mais ce n'est pas le moment en effet. » Voilà. Je pense qu'au vu de ce que vivent les Israéliens et les Palestiniens aujourd'hui, je pense que ça n'est pas inintéressant, mais ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà. Bon, lisons quand même, parce qu'il y a quelques papiers là-dessus, même si l'essentiel des papiers, c'est bien sur ce qui se passe sur place. L'insoutenable attente, là je pense qu'on parle de l'attente des familles israéliennes qui ont des proches qui ont été pris en otage. Plus de 600 morts. Alors le bilan a sûrement, s'est sûrement alourdi. Hein. C'était un papier de ce matin. Le bilan provisoire de l'assaut du Hamas en territoire hébreu, réputé inviolable, a sidéré le monde. C'est maintenant l'angoisse quant au sort des otages. C'était donc samedi à l'aube. Depuis l'attaque qui a réveillé Israël en plein Shabbat et plongé la population dans la stupeur, il n'est donc plus question de tension, d'opérations, d'échanges de tirs, comme habituellement avec l'interminable conflit israélo-palestinien. Ça dure depuis 75 ans. Voilà, on me dit que ça a dépassé les 700 morts côté israélien. Je pense que du côté palestinien, on en est dans ces eaux-là aussi. L'histoire retiendra que les brigades Al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont lancé des hostilités 50 ans après la guerre du Kippour, dont Hugo nous parlait tout à l'heure, déclenchée le 6 octobre 73 par l'Égypte et la Syrie. Elle avait pris le jeune État, 25 ans d'existence pour Israël à l'époque, au dépourvu. Un demi-siècle plus tard, la sidération est la même côté israélien, à ceci près que ce n'est plus la peur de la défaite qui nourrit le traumatisme, mais la fin d'un mythe. La forteresse Israël n'est plus inexpugnable. Les services de renseignement n'ont rien vu venir. Au moins 3000 roquettes se sont subitement abattues pendant que les combattants utilisaient explosifs, bulldozers, bateaux et même parapentes. Opération minutieusement préparée pendant des mois. Voilà, sur le bilan humain, Nitesens nous dit que sur France Info ce soir, on disait presque 800 morts côté israélien et un peu moins de 700 côté palestinien. Une opération minutieusement préparée pendant des mois. Au-delà de se louper, donc des services de secret israéliens qui sont considérés comme parmi les meilleurs services secrets du monde, Bertrand Badi, se dit, qui est Bertrand Badi, il faut que je vous dise, c'est un chercheur. Le chercheur Bertrand Badi se dit stupéfié par la vulnérabilité que cette attaque a révélée. Le mur de Gaza a été réputé infranchissable. L'idée même que des ennemis puissent pénétrer massivement en Israël était inimaginable. Et pourtant, le choc émotionnel évoque celui du 11 septembre aux États-Unis. Voilà. D'ailleurs, dans le Figaro, il y a un édito qui parle du 11 septembre, expliquant que voilà, c'est un vrai choc pour Israël, pour les Israéliens, de voir leurs frontières qu'ils pensaient inviolables pénétrées ainsi par les combattants du Hamas. Personne en Israël ou ailleurs n'oubliera le regard terrifié de Noah, jeune fêtarde, vous savez, qui assistait à un festival de musique, ni les images des milices du Hamas ouvrant le feu dans les rues, traquant les civils jusque dans leurs maisons, à Sderot ou Ashkelon, sans rencontrer de résistance. Une centaine d'otages seraient toujours entre leurs mains, destinés à servir de monnaie d'échange contre des prisonniers, de boucliers humains face à la riposte, à moins qu'ils ne soient simplement exécutés dans une logique de terreur. Pour les proches, l'insoutenable attente commence. On va aller voir le bilan. Je pense que les confrères de France Info, effectivement, peuvent nous donner un bilan provisoire, hélas très provisoire, de ce qui se passe. Ils ont peut-être un... hop, voilà. Proche-Orient, voilà. Voilà. Un dossier. Non, c'est mal fait ça, pardon. Bougez pas, hop. Voilà, j'ai un bilan qui est un peu ancien. De 1700 morts en tout, c'est France Bleu qui le donnait, 700 Israéliens, 560 du côté palestinien, mais c'est un bilan qui a 17 heures précisément. Hop, je vais essayer de trouver un tout petit peu plus récent, même si de toute façon, hélas, il va continuer à s'alourdir. Non, en gros, c'est ça, quoi. Un des derniers bilans disponibles, c'est 1100 morts, voilà. En tout. Pour l'instant, 1200, 1100, 700 côté israélien, 560 du côté palestinien. De toute façon, ça va évoluer. Je reviens à l'article du Parisien. avec une question à laquelle tente de répondre un Français qui s'appelle Frédéric Ancel, qui est géopolitologue. Le Parisien lui demande, mais quelle est la stratégie du Hamas avec ces prises d'otages là, dont on parle aussi. Et Frédéric Ancel répond, ils font ça pour susciter une riposte foudroyante d'Israël, dont les images terribles de civils palestiniens tués en grand nombre à Gaza imposeraient alors aux chancelleries arabes, et notamment l'Arabie Saoudite, de ne pas reconnaître Israël. Selon Frédéric Ancel, je ne sais pas si c'est une analyse qui est juste, ces prises d'otages viseraient à provoquer une réaction extrêmement violente d'Israël, qui après obligerait les pays arabes, et notamment l'Arabie Saoudite, qui était sur le point de reconnaître Israël, de ne pas le faire. Voilà. Car une reconnaissance d'Israël par l'État dépositaire et protecteur des lieux saints de la Mecque, donc comprenez l'Arabie Saoudite, et de Médine, signerait l'effondrement de la légitimité de la lutte que mène le Hamas contre Israël, à la manière d'une guerre sainte. Ça, c'est l'analyse de Frédéric Ancel. Bon, là, vous avez un papier sur les tensions politiques en France sur ce sujet, pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Les ambiguïtés des insoumis font vaciller la NUPES. Les prises de position de nombreux députés insoumis et LFI ont suscité une pluie de critiques au sein de la majorité, mais aussi de plusieurs personnalités du gauche. Donc déjà que la NUPES n'allait pas très très bien, mais alors là, pour le coup, on n'est quand même pas très loin de la fin, si vous voulez, mon humble avis. Des propos choquants et totalement déplacés, des ambiguïtés révoltantes. La première ministre Elisabeth Borne, d'abord, n'a pas pris de gants pour dénoncer les prises de position exprimées depuis samedi par une partie des insoumis sur l'attaque du Hamas contre Israël. La France insoumise et son leader Jean-Luc Mélenchon sont ainsi désignés pour ne pas avoir condamné clairement l'attaque du Hamas et pour envoyer dos à dos le mouvement islamiste et l'État israélien. Dans un communiqué de son groupe parlementaire envoyé samedi, LFI écrivait en effet quels sont les termes, quels sont les mots. L'offensive armée des forces palestiniennes menées par le Hamas. Donc c'est vrai que là, le communiqué ne parle pas d'organisation terroriste, mais de forces palestiniennes. Première remarque. Intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Bon ben voilà, le Parisien le dit, sans jamais employer le terme terrorisme avant d'appeler un cessez-le-feu. Allant au-delà, le député LFI Louis Boyard a accusé la France d'avoir trop longtemps, je cite, fermé les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine. Au-delà du camp présidentiel, ces déclarations ont également choqué chez les socialistes. Le député PS Jérôme Guedj a exprimé même du dégoût de voir que certains insoumis ont immédiatement été dans une forme de relativisme, de renvoi dos à dos, d'absence de ce minimum de compassion qui fait notre humanité commune, donc ce que reprochent les opposants à LFI, en tout cas à ces élus LFI qui ont tenu ces propos, c'est de ne pas prendre en compte la dimension terroriste, ces attaques terroristes du Hamas contre des civils, contre des femmes, contre des enfants, et de ne pas dénoncer ces attentats clairement. Et finalement de renvoyer les deux parties dos à dos, israéliens et Hamas. Même au sein des insoumis, certains ont fait entendre leurs différences. Vous avez aussi des divisions au sein de LFI là-dessus. Même au sein des insoumis, certains ont fait entendre leurs différences, comme François Ruffin, donc qui est un député LFI, qui a exprimé sur Twitter, sur X, sa condamnation totale de l'attaque du Hamas, qui se distingue un petit peu du comité officiel de LFI. Message relayé par son collègue, d'ailleurs, Alexis Corbière. Voilà. Bon, pour les tensions politiques en France, vous avez cet article. Mais aujourd'hui, moi, ça ne me semble pas l'essentiel. Ce qui me semble être l'essentiel, c'est ce qui se passe sur place. Acteur 95, Samot Le Guerrier, merci, et ainsi qu'à Des Matsouya, merci à tous pour vos soutiens. Théodrome, je ne sais plus, je t'ai remercié tout à l'heure, et Chopiti, je ne sais plus. Ces images sont... Voilà, juste ces images. Israël, 7 octobre 2023, c'est la une de Libé ce matin, abject. Abject, c'est le titre de l'édito de Dov Alphon, qui écrit ce matin. Dov Alphon, c'est quelqu'un qui écrit des éditos qui sont assez justes en général, qui écrit « Il y aura un avant ». Il y a MMG7F qui est un modo qui dit « Personne ne mérite de mourir dans ces conditions, qui que ce soit ». Et il a raison. Aucun civil, de quelque bord que ce soit, arabe, palestinien, israélien, personne ne mérite de mourir dans ces conditions. abjecte. Il y aura un avant et un après cette journée du 7 octobre 2023 dans l'histoire d'Israël, mais aussi dans l'histoire de la diplomatie mondiale. L'attaque sidérante du mouvement terroriste Hamas sur le sud d'Israël, menée par des centaines de militants, d'abord sur les bases militaires israéliennes au nord de la bande de Gaza, puis très rapidement sur des communes avoisinantes où des centaines de civils ont été assassinés, se distingue tout autant par son mode opératoire que par la cruauté extrême de son exécution. À Gaza, le Hamas nie tout lien juif avec la Terre Sainte et considère Israël comme un avant-poste colonial au cœur du monde islamique qui doit être détruit. Alors, le Hamas ne reconnaît pas l'État d'Israël et pour le Hamas, depuis toujours, hein, Israël doit être détruit. Ça n'est pas nouveau. Ce discours s'aligne sur une haine bouillonnante d'Israël alimentée par le fait qu'environ 3/4 de la population de la bande de Gaza sont des réfugiés ou des descendants de réfugiés qui ont perdu leur maison dans ce qui est devenu Israël en 1948. C'est là, dans cette bande côtière surpeuplée, on est, je crois, dans la bande de Gaza, sur une des plus grandes densités de la population au monde. C'est là, dans cette bande côtière surpeuplée, assiégée, appauvrie, qu'ont été amenés de force samedi au moins 100 otages israéliens, enfants terrifiés, jeunes femmes violentées, vieillards en chaise roulante figurant depuis dans des vidéos abjectes, partie intégrale du dispositif de la terreur. Lisons l'article de Libération, article de Guillaume Gendron. Des familles en larmes, tenues en joue dans leur cuisine par des militants du Hamas. Une dame âgée qu'on fait parader au volant de sa voiturette de golf dans une avenue de Gaza. Des conscrits abattus en sous-vêtements, chargés à l'arrière d'un pick-up comme de la viande. Et cette foule de festivaliers qui courent affolés dans la plaine, qui participent à une rêve nature et paix, c'était le titre de cette fête, dans la nuit de vendredi à samedi jusqu'à l'aube, jusqu'au moment où les assaillants se matérialisèrent dans le ciel en parapente à hélice. Des dizaines de ces jeunes fêtards seront fauchés par balles, autant enlevés jusqu'à Gaza. Voilà. Les attentats du Hamas, ce qui s'est passé ce week-end, c'est ça, quoi. Collision de deux univers géographiques et mentaux, séparés jusqu'alors par quelques kilomètres de barbelés et de béton, pour toute une jeunesse israélienne insouciante, le pourtour de Gaza était un simili désert récréatif pour les kibboutzniks, un havre où élever des enfants, à condition d'ignorer que 2 millions de personnes étaient parquées, hein, de l'autre côté du mur, et les roquettes sporadiques, généralement interceptées par les batteries antimissiles ou le nez planté dans les camps. Vous sentez dans l'écriture de Libération comment Libé essaye de comprendre les tensions des deux côtés. Mais pour le Hamas, ces pâturages des communautés grillagées n'étaient que le contour de la prison, quelqu'un parlait d'une prison à ciel ouvert, d'un peuple palestinien dont il se veut l'ultime défenseur, garant de la résistance à l'occupant, ce sont les mots du Hamas. Ces hommes ont fait tomber les clôtures au bulldozer, détruisant même le point de passage d'Erez. Dimanche soir, le bilan humain côté israélien était sidérant, bon, il s'est alourdi. En un week-end, on comptait plus de 600 morts, en grande partie des civils. Jamais depuis la guerre de 1948, Israël n'avait connu d'aussi lourdes pertes en une journée. Jamais. À titre de comparaison, la seconde intifada, 2000-2005, avait fait environ 700 victimes non militaires. En 5 ans, au cours d'une longue campagne d'attentats, c'est la campagne d'attentats dont je vous parlais tout à l'heure quand je m'étais rendu en Israël et dans les territoires. C'était à cette époque-là, il y avait des attentats un petit peu partout, quoi. Voilà. Et bien, pendant ces 5 années de campagne d'attentats, il y a eu 700 morts. On en est déjà là, quoi, en l'espace de 48 heures. En une journée, nombre de certitudes se sont effondrées. En premier, la thèse répandue dans les cercles de la défense israélienne que le Hamas était une nuisance ponctuelle et gérable à coups de bombardements chorégraphiés, avec la conviction que ses dirigeants se satisfaisaient d'un affrontement de basse intensité en gestionnaire du siège, envolait aussi l'idée que le conflit était devenu indolore pour la majorité des Israéliens à l'abri du parapluie du système antimissile Dôme de Fer ou derrière des murs de 9 mètres de haut. On n'en parlait plus ces dernières années. Vous n'entendiez plus parler dans les médias du conflit israélo-palestinien. Hein, tout le monde s'était résolu finalement à ce qu'un accord ne soit jamais trouvé. Tout le monde s'était résolu à ce que les Palestiniens, pardon pour le terme, étaient parqués, hein, notamment dans la bande de Gaza, voilà, avec des conditions de vie, un taux de chômage, un accès à l'eau, à la nourriture extrêmement compliqué, avec un Hamas qui effectivement de temps en temps lançait des roquettes et commettaient des attentats, mais quelque chose de gérable. Voilà. C'est ce que pensait sans doute une partie de la classe politique et de la population israélienne. Ce qui vient de se passer ici, ben, a montré à tout le monde que ça n'était pas le cas, en fait. Pour les pétromonarchies du Golfe, comme les propagandistes israéliens pressés de tourner la page du problème palestinien, hein, c'est la fin d'une chimérique normalisation sans l'aval des concernés. Moi, c'était mon sentiment. À une époque, je vous le disais, quand j'ai commencé ce métier, on va dire entre mes 25 ans et mes 40, 45 ans, donc pendant 20 ans, la question du Proche-Orient, elle est dans les médias tous les jours. On en parle tout le temps, avec le processus de paix auquel on croit, processus de paix auquel on ne croit plus, voilà. Et puis, ces dernières années, plus. Voilà. Et la phrase, elle est très forte, hein, comme si certains avaient cru à une chimérique normalisation sans l'aval des concernés. Sans l'aval des concernés. Et maintenant, toutes les parties prenantes sont face à l'inconnu. Que fera le Hamas après son triomphe opérationnel de son butin humain? Un échange de prisonniers paraît difficile à imaginer, alors que Netanyahou promet une vengeance sans précédent qui réduira les bases du Hamas à un monceau de gravats. D'autres fronts au Liban, en Cisjordanie, peuvent-ils s'ouvrir? Et quelle forme prendra la réplique israélienne au-delà des premiers bombardements qui ont fait déjà plus de 370 morts à Gaza? On sait qu'on est déjà bien au-delà, quoi. La dernière incursion terrestre de Tsahal dans l'enclave remonte à 2014, bilan aussi lourd que mitigé sur le plan militaire. Voilà. C'est intéressant cette idée que voilà, certains ont à un moment pensé qu'on pouvait avoir une normalisation de la situation dans la région sans l'aval des concernés, des Palestiniens, quoi. Je passe au Figaro. Après l'horreur, Israël prépare sa riposte, on est en plein dedans et vous avez un édito, merci Yves pour ce soutien, merci, baptisé Ground Zero. Pourquoi le Figaro compare ce qui vient de se passer au 11 septembre, les attentats du 11 septembre aux États-Unis? Ça peut paraître un peu surprenant, on va essayer de comprendre. Oui, il y a Yann J qui le dit avec colère, mais ça n'est pas faux. Yann qui écrit, en effet, on a gentiment laissé crever la Palestine. Et là on parle notamment de l'Occident et on s'étonne qu'il y ait des gens qui n'ont plus rien à perdre. Ground Zero. L'humanité et le monde civilisé n'avaient pas besoin d'un nouveau 11 septembre. C'est pourtant ce qui s'est passé samedi avec l'attaque sauvage du Hamas en Israël. Surprise, effarement, carnage, onde de choc dévastatrice. Il y aura un avant et un après 7 octobre 2023. Ce sont exactement les mots de Libération. 50 ans après la guerre du Kippour, qu'Israël avait failli perdre, 30 ans après la signature des accords d'Oslo, qui avaient permis de rêver de paix, à l'époque on y avait cru, hein, le Proche-Orient est renvoyé à son Ground Zero, ce point d'impact où il ne reste que des ruines. L'heure des comptes viendra après celle des représailles. Benjamin Netanyahou a promis une campagne puissante et prolongée qui le place devant la tentation au risque d'une réoccupation de Gaza, prôné par ses alliés politiques les plus extrémistes. Netanyahou, lui, ça fait longtemps qu'il pense que c'est impossible, en fait, militairement, à tenir une occupation, par exemple, de la bande de Gaza. Le Hamas, qui s'attend éventuellement à cette occupation militaire à nouveau, a-t-il réservé un autre piège à Israël? Les forces israéliennes s'étaient retirées de cette enclave ensablée en 2005, sur décision du premier ministre de l'époque, était Ariel Sharon, faute d'y être autre chose que des cibles. Bon, là, vous avez un autre article sur la ligne rouge franchie par les insoumis en France. Je pense qu'on a lu ce qu'il fallait là-dessus. Je préfère passer à l'édito de Lacroix ici sur la mort de la diplomatie. Qu'est-ce que ça veut dire? Lacroix qui s'interroge. Ça commence par LFI, mais ça arrive autre chose. Lacroix qui dit « Il n'est pas possible, comme l'a fait un député de la France insoumise, donc c'est M. Boyard, de renvoyer dos à dos l'État d'Israël et un groupe terroriste armé. D'un côté, un pays démocratique, même en crise, de l'autre, une organisation violente, clandestine, dictatoriale. L'attaque du Hamas contre Israël, ses modalités particulièrement odieuses et inhumaines pour les populations civiles doivent être fermement condamnées. Pour autant, il n'est jamais interdit de se poser la question du pourquoi et de voir comment, au fil d'années de tergiversation internationale, quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure qu'on avait abandonné la Palestine, d'indifférence, vous voyez, la croix est sur cette ligne aussi, quoi. Amso Griffith, on lit la croix, on lit plus le Figaro là. Et de politique nationaliste israélienne, parce qu'il y a ça aussi, il y a ça aussi. On a au pouvoir aujourd'hui une droite israélienne qui est nationaliste, qui est le gouvernement le plus à droite qu'Israël ait jamais connu. On en est arrivé là. Donc voilà. Vous avez Isabelle de Golmine ici dans la croix qui dit deux choses, qui dit ne mettons pas dos à dos Israël et le Hamas dans ce qui vient de se passer là. C'est très important de le comprendre, ça. Dans ce qui vient de se passer là, hein, ces attaques terroristes. En revanche, il n'est pas interdit de s'interroger sur comment on en est arrivé là. Voilà. Hein. Comme le dit Manchkips dans le chat, le Hamas, ça n'est pas la Palestine. Hein. Voilà. J'ai trouvé intéressant aussi cet article, toujours dans la croix. Pourquoi le Hamas a pris le risque de défier Israël sur son sol, sachant qu'on sait que la réponse, la réplique israélienne de l'armée israélienne de Tsahal va être terrible. Le mouvement islamiste qui dirige depuis plus de 15 ans maintenant la bande de Gaza, c'est les patrons là-bas. Hein. Comprenez bien. Hein. C'est eux qui dirigent. Pardon, j'ai la voix qui gratte. Le mouvement islamiste qui dirige depuis plus de 15 ans la bande de Gaza a déjoué tous les pronostics en lançant une opération d'une ampleur inégalée, vous l'avez compris, contre l'État hébreu. Entreprise risquée qui répond à plusieurs objectifs stratégiques. Le chercheur Thomas Vescovi explique « Si le leader de la branche militaire du Hamas a pu monter une telle opération, c'est en partie grâce à la porosité de sa frontière sud avec l'Égypte, qui offre des points d'entrée importants pour du matériel, mais c'est surtout grâce au soutien logistique, financier et politique de l'Iran. Vous êtes plusieurs à souligner ce rôle de l'Iran, sans doute, dans ce qui a rendu possible cette offensive du Hamas. C'est l'avis de David Kalfa, qui est co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. Pour Thomas Vescovi, le chercheur que nous évoquions, le mouvement du Hamas a tiré parti du terreau social et politique, hein. À Gaza, on est après 20 ans de blocus israélien. L'insécurité pour les Palestiniens est telle que les groupes armés ont face à eux un boulevard. La colonisation donc israélienne progresse en Cisjordanie. La diplomatie est morte. Hein. Il n'y a aucun espoir de résolution de ce conflit par la voie diplomatique. Rien n'est fait pour lancer des négociations sérieuses depuis des années déjà. L'autorité palestinienne et son président Mahmoud Abbas sont totalement décrédibilisés. Le mouvement islamiste joue ainsi une partie très politique. N'oubliez pas que la politique aussi joue là. Hein. Le mouvement islamiste joue ainsi une partie très politique. Comme il se faisait damer le pion par le djihad islamique, il avait besoin de redorer son blason, dit Thomas Vescovi, car contrairement à son rival, ce n'est pas seulement un groupe djihadiste armé. Le Hamas est une organisation hybride qui dirige la bande de Gaza comme un proto-État depuis 2007. Elle s'inscrit dans l'après Mahmoud Abbas pour prendre le leadership de l'ensemble du mouvement national palestinien. S'il a instauré par la terreur un rapport de force aujourd'hui avec Israël, notamment avec la capture de civils et de soldats israéliens, le mouvement islamiste n'est pas dans la même situation que l'Égypte lors de la guerre du Kippour en 1973. Le Caire avait pu négocier en tant qu'État, en tant que pays, alors que le Hamas, considéré par l'Union européenne et l'Amérique du Nord comme terroriste, n'a pas les cartes pour négocier à une plus grande échelle. C'est ce que redoute le chercheur et la disproportion des forces est telle que cela va finir dans un bain de sang. Voilà ce qu'annonce ce chercheur. Yo Le Potier pose la question, est-ce qu'il existe des risques que la guerre se propage notamment en Iran ou au Liban, à ton avis? C'est une crainte évoquée par certains. Ce n'est pas de boule de cristal, mais c'est une crainte évoquée par certains. Alors, il y a Nomad qui écrit, moi je veux surtout comprendre comment ces missiles ont pu passer les frontières les mieux gardées du monde entier. Attention, les roquettes du Hamas, elles ont été tirées par plusieurs milliers, entre 3 et 4 000 je crois, mais pour l'essentiel ce ne sont pas ces roquettes qui ont tué, sauf erreur de ma part, les victimes côté israélien. Ce sont les combattants du Hamas, hein, qui ont pénétré Israël, quoi. Voilà. Il me semble que l'essentiel de ces roquettes a été arrêté par le bouclier israélien, quoi. Et on va relire cet édito que je vous ai lu dès le sommaire, tellement il me semblait intéressant. Édito dans le journal L'Opinion, signé Jean-Dominique Merchet, une tragédie sans issue. Tragédie sans issue. Une tragédie antique, une tragédie dont il n'y a pas de solution. Chacun des deux camps a de bonnes raisons de considérer qu'il a le droit et la morale de son côté. Je vous dis ça avec mes mots. Chacun des deux camps, et depuis un moment déjà, pense qu'il a raison. Moi, c'est le constat que j'avais fait de façon très modeste quand j'étais allé sur place. Il y a de cela, je ne sais pas moi, je devais avoir entre 25 et 30 ans, donc 20 et 25 ans. C'est que des deux côtés, on est persuadé d'avoir raison. Chacun des deux camps a de bonnes raisons de considérer qu'il a le droit et la morale de son côté. L'injustice faite aux Palestiniens, elle est là, elle est vraie. L'injustice faite aux Palestiniens de leur avoir pris leurs terres, de les avoir chassés de chez eux, d'en avoir fait des réfugiés, est tout aussi réelle, dit le journaliste, que le désir des Juifs, trop longtemps persécutés, l'antisémitisme, l'Holocauste, d'avoir enfin un refuge. Mais quoi qu'il fasse, les deux acteurs finissent par retomber inexorablement dans la violence. Il y a 30 ans, le 13 septembre 1993, lors de la signature des accords d'Oslo, on avait pu croire, c'était l'espoir à l'époque, que les deux parties avaient trouvé ensemble le chemin de la paix. Ça aurait été formidable. Il n'en a rien été, pour les raisons que Hugo Décrypte évoquait dans sa vidéo tout à l'heure, à savoir que la droite et l'extrême droite israélienne d'un côté, le Hamas de l'autre, en fait, n'ont pas voulu de cet accord de paix. On pourrait débattre à l'infini pour savoir qui porte la responsabilité de cet échec. À mon avis, c'est un échec partagé finalement des extrémistes des deux camps. Hein. C'est ce qui me semble être. La solution de deux États coexistant côte à côte est morte depuis des années. Personne pourtant n'a d'autres solutions à proposer. Putain, on est bien. Hein. Reste donc la peur et la haine qui se nourrissent l'une et l'autre. Il n'y a pas, à vue d'homme, d'autre issue qu'un conflit sans victoire définitive d'un camp sur l'autre. Je répète cette phrase. Il n'y a pas, à vue d'homme, là, à court terme, à moyen terme, d'autre issue qu'un conflit sans victoire définitive d'un camp sur l'autre. Devant l'horreur de telles scènes, on aimerait écrire autre chose, quitte à faire semblant de croire la paix possible, mais la lucidité nous l'interdit, cette guerre va se poursuivre. Voilà. Je trouve ça très lucide et sans doute assez juste. Voilà. Je vous lis un petit peu encore sur le conflit israélo-palestinien et puis après on passe rapidement sur le reste de l'actualité pour vous dire qu'il se passe d'autres choses aussi. Skybritter, merci beaucoup pour le 13e mois. Lotherion, merci pour le 2e mois. Merci à Arson29, c'est pas grand chose, je fais avec mes petits moyens, hein. C'est gentil de me dire ça. Voilà. En ce moment je suis en question pour un champion, donc je peux pas streamer le matin, mais au vu de l'actualité, j'aurais trouvé vraiment indigne de ne pas vous proposer un petit set d'actu, même si je ne suis pas sûr d'être le mieux armé pour vous raconter suffisamment intelligemment tout ça. Je le fais franchement avec grande modestie. N'hésitez pas à faire vos recherches, à trouver des sources d'infos de qualité pour comprendre au mieux ce conflit qui est éminemment complexe, vous l'avez compris, quoi. Merci Alexandra. Salut Nasrek, merci pour le message. Merci Camille. Je reviens à toi Camille dans un instant, je lisais un commentaire intéressant. Merci Camille pour qu'il vienne offrir 5 abonnements à la commu. Merci Camille, merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, en tout cas, je suis heureux d'avoir eu ce moment d'échange avec vous, sans vous flatter. Encore une fois, je le redis, sur un sujet aussi sensible qui crée autant de tensions, de polémiques, il suffit de voir le débat politique sur le sujet en France, de voir c'est pas pour vous flatter, mais la qualité du chat sur un sujet comme ça, où on arrive à discuter de façon apaisée de quelque chose qui est pourtant qui crée des réactions épidermiques, bon, je vous dis bravo. On y reviendra bien sûr dans les prochains jours, puisque les journaux vont continuer à en parler. Je serai là demain soir, hein, bien sûr, après Question pour un champion. Demain soir, mardi. Il faut que je bosse aussi sur la programmation de l'Hebdo Étienne de vendredi, parce que pour l'instant, je n'ai pas toute mon équipe. Il faut que je prépare le stream de lundi prochain avec le président de l'ARCOM. Et puis, j'ai le Samplay de dimanche qui est en train de se caler aussi. France-Allemagne, le couple à la grimace. Dossier dans Libération, puisqu'il y avait une rencontre franco-allemande aujourd'hui. Olaf Scholz, donc c'est le chancelier allemand, et Emmanuel Macron se retrouvaient de façon informelle aujourd'hui. Alors de façon informelle, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas eu de déclaration après, on va aller voir sur internet s'il s'est passé quelque chose. Une nouvelle occasion de mettre sur la table les nombreux sujets qui fâchent. Je sais que ça va pas très très fort, ça va même pas bien du tout, hein, entre l'Allemagne et la France sur de nombreux sujets, institutions européennes, défense, énergie. Sur quelle application il y a comme petit qui me demande sur quelle application je lis les journaux. En fait, je suis abonné à chacun des journaux que je vous lis, et donc ce n'est pas une application. Je télécharge le journal donc tous les matins je lis Le Monde, enfin je télécharge Le Monde, le soir plutôt pour Le Monde d'ailleurs, Le Parisien, Libération, Le Figaro, La Croix, L'Humanité, Les Échos, L'Opinion. J'espère que j'oublie personne. Il faut que je me remette à l'équipe. Et puis après, je vous les lis, quoi. C'est ce qui me semble le plus efficace. Et notamment, quand on est abonné directement aux journaux, on est sûr de les avoir, et on les a beaucoup plus tôt que si on passait par une plateforme, quoi. On les a dès le soir tard, en fait. À partir de 22h, 22h30, quasiment tous les journaux dont je vous parle, ils sont téléchargeables, en fait, bien avant que vous puissiez les trouver, magie du numérique, dans les kiosques le lendemain, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe entre la France et l'Allemagne ? C'est important. Le gouvernement allemand et français se retrouvaient donc aujourd'hui, et demain aussi d'ailleurs à Hambourg, dans un format nouveau, nous dit l'Élysée. Il ne s'agit pas d'un classique conseil des ministres franco-allemand, hein, mais d'une retraite informelle sans déclaration finale. Hein, c'est ce que je pensais. Il n'y a pas de déclaration. Afin de nourrir la relation au-delà des affaires courantes. Manifestement, il y a une petite tentative de rabibochage. Manifestement, écrit Libération, Berlin a enfin pris conscience que le couple franco-allemand est en état de mort cérébrale. Pour reprendre l'expression qui avait été employée par le président Macron à propos de l'OTAN, les deux rives du Rhin étant en conflit ouvert sur pas mal de sujets importants, sur des enjeux stratégiques, de la défense, ils ne sont pas d'accord sur les questions de défense, sur le nucléaire, ils ne sont pas d'accord, en passant par l'avenir même de l'Union. Il faudra donc plus qu'une retraite, donc c'est le petit format de rencontre d'aujourd'hui et demain, pour résoudre cette crise qui a débuté avec l'arrivée du social-démocrate Olaf Scholz à la chancellerie. C'était en décembre 2021. El Fabinho, merci beaucoup pour le troisième mois d'abonnement. Alors certes, explique Libération, il y a toujours eu des hauts et des bas dans la relation franco-allemande depuis 1950, mais rien d'aussi grave, ok. Je ne savais pas que c'était aussi grave. L'explication de cette mésentente, se trouve pour l'essentiel à Berlin, dit Libération. Libé nous dit c'est la faute des Allemands. Mimic, merci beaucoup pour le quatrième mois. Elle est d'abord due à l'étrange attelage. Alors, Libération a une lecture, je ne sais pas si c'est la bonne, mais qui est assez simple de ce conflit, de cette tension plutôt. Tension d'abord due à l'étrange attelage tripartite, hein, il y a une coalition au pouvoir en Allemagne, composée des sociaux-démocrates, des libéraux, et des écologistes. Voilà, il faut savoir qu'en Allemagne, le système électoral fait que vous avez souvent des coalitions qui se forment pour arriver au pouvoir. Et là, vous avez des sociaux-démocrates, des libéraux et des écologistes. C'est vrai qu'ils ne sont pas d'accord sur plein de trucs et que du coup, le pouvoir est un petit peu bloqué. Cette coalition sans précédent dans l'histoire du pays fonctionne mal, dit Libé. Chacune de ses composantes se tire dans les jambes. C'est un tel bordel, personne n'étant d'accord avec personne, qu'on s'épuise à négocier avec eux, car on ne sait jamais qui aura le dernier mot entre ces trois parties. Au lieu de chercher à faire avancer l'Europe, c'est ce qu'on explique du côté de l'Élysée. Surtout parvenir à un compromis entre trois parties que beaucoup de choses séparent prend tellement de temps et mobilise tellement d'énergie qu'il est difficile ensuite pour le gouvernement de remettre en cause l'accord interne lors des discussions franco-allemandes puis européennes. Autrement dit, la diplomatie allemande, qui n'a jamais été connue pour sa souplesse et son adaptabilité, ça tire à balles réelles quand même, a atteint un niveau de rigidité inédit. C'est intéressant l'analyse de Libération. Vous savez, souvent, on dit qu'on a un système politique en France, on a un esprit critique et c'est très bien, et souvent on se plaint de notre système politique, vous savez, la Ve République avec une prééminence de l'exécutif, un pouvoir parlementaire qui n'est pas assez puissant, et puis un scrutin qui déforme le résultat des élections par une prime au fait majoritaire, avec le scrutin majoritaire qui caractérise l'élection présidentielle, mais aussi l'élection, par exemple, à l'Assemblée. Alors, dans certains pays, avec des régimes plus parlementaires, comme en Allemagne, ben, vous avez notamment un scrutin qui est plus proportionnel, où vous avez des assemblées qui ressemblent plus au vote des électeurs, donc avec quelque chose qui semble plus démocratique. Pas qui semble, d'ailleurs, qui est plus démocratique. Le problème, c'est l'efficacité. Alors ça, c'est ma vieille analyse des différences entre les régimes présidentiels ou présidentialistes. D'ailleurs, en France, c'est plutôt présidentialiste. États-Unis, régime présidentiel. En France, présidentialiste, c'est un petit peu différent, la cinquième. Et régime parlementaire, comme en Grande-Bretagne, par exemple, ou en Allemagne. Et alors, effectivement, c'est intéressant. Vous avez un Bundestag en Allemagne qui reflète peut-être plus fidèlement la composition du corps électoral à l'instant D. Mais à l'instant D, le problème, c'est qu'après, il faut s'entendre. Parce que comme vous n'avez pas de prime au premier parti, au parti qui arrive en tête, les formations sont obligées de s'allier, de former des coalitions, voilà, pour diriger. Alors, quand ça se passe bien, formidable. Quand ça se passe pas bien, c'est-à-dire que les coalitions ne s'entendent pas entre elles, ce qui arrive souvent, eh ben, vous avez un blocage politique. Et là, vous avez un blocage diplomatique. C'est en tout cas l'analyse de Libération. La seconde explication tient à l'explosion du logiciel allemand qui a assuré depuis Schröder le succès de l'économie allemande. L'économie allemande ne va pas très fort. Un succès économique allemand qui était fondé sur une triple dépendance à l'égard des États-Unis, qui assumait les coûts de la défense. Hein, vous savez que l'Allemagne avait un budget militaire, contrairement à nous, la France, très réduit. Voilà, et il s'en remettait finalement à l'OTAN et aux États-Unis. Donc dépendance militaire vis-à-vis des États-Unis, dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie qui fournissait à l'industrie allemande, puisqu'ils ont une grosse industrie, un gaz bon marché. Bon, bah, avec la guerre en Ukraine, ça s'est un peu terminé. Et puis dépendance vis-à-vis de la Chine, à la fois sous-traitante, consommatrice et investisseuse. Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont mis fin à tout ça pour des raisons différentes. Donc l'économie allemande vacille actuellement. En attendant, l'Allemagne a choisi de faire prévaloir ses intérêts nationaux. On le voit sur la défense. Certes, elle est prête à s'armer, se réarmer, avec un plan d'investissement annoncé de 100 milliards d'euros. Mais dans quel cadre ? Si elle n'achète pas européen, c'en est fini des projets français d'Europe industrielle la défense. Non, ESPAF, vraiment, la France n'est pas un régime parlementaire, c'est un régime présidentialiste, voilà, avec une prééminence du pouvoir exécutif qui est bien plus, dans l'équilibre des pouvoirs, bien plus puissant que le pouvoir législatif. On ne va pas rentrer sur la dissolution de l'Assemblée, sur le 49-3, tout ça, mais je pourrais t'expliquer ça, mais ça prendrait un petit peu de temps. Même attitude sur l'énergie, autre dossier emblématique. Si, bon, là aussi, l'Allemagne nous casse, bah, à un moment, nous casse les couilles, hein, il faut dire le truc. Si l'Allemagne a fait le choix souverain de sortir du nucléaire, ils ont le droit, hein, ils ont le droit, hein, elle veut l'imposer à la France, ouais, c'est vrai, qui sinon disposera d'une énergie décarbonée, bon marché, avantage compétitif, dont elle veut la priver. Vous savez que dans les discussions sur l'énergie au niveau européen, l'Allemagne ne veut pas que le nucléaire français soit considéré comme une énergie propre, décarbonée, quoi. Voilà. Et donc là, il y a des discussions au niveau européen là-dessus qui sont très tendues. Ce qui a changé dans les rapports franco-allemands, c'est l'inversion du rapport de puissance. Bon, Libé est un peu fâché avec l'Allemagne dans cet article. Avec l'effondrement du logiciel allemand, ce sont les politiques que défend depuis 30 ans la France, sous les quolibets de ses partenaires européens, qui ont été validées, de l'indépendance militaire à la politique industrielle, en passant par l'énergie, le protectionnisme. Paris refuse donc, pour sauver l'Europe, de baisser la tête face à Berlin. Elle n'hésite pas à taper du poing sur la table si nécessaire. Bruno Le Maire, notre ministre des Finances, a mis en garde le 29 août nos amis allemands, c'est un peu tendu, ne critiquez pas le nucléaire français. C'est une ligne rouge absolue de notre politique économique. En langage non diplomatique, faites pas chier, quoi. Et afin de mieux se faire comprendre, la France n'exclut plus, ça c'est intéressant, de sortir du marché européen de l'énergie. Vous savez, ce marché européen de l'énergie qui fait en fait que le prix de notre kilowattheure n'est pas calculé sur le prix de notre énergie qui sort de nos centrales, mais sur le prix de l'énergie qui sort de, en gros, de la dernière centrale de gaz à produire ce kilowattheure, hein, c'est un petit peu le système, et donc c'est dénoncé par beaucoup en France, et ils ont raison de le dénoncer, et ben là on apprend que la France n'exclut pas de sortir carrément du marché européen de l'énergie si l'Allemagne ne veut pas entendre la position française, quoi. Voilà, c'est intéressant, hein. Voilà pourquoi c'est tendu entre la France et l'Allemagne, et on va voir, on va aller voir s'il y a eu des déclarations. Normalement il n'y avait pas de déclaration finale à l'issue de cette rencontre qui doit se poursuivre demain. Macron, je t'appelle Macron, Allemagne, on va voir. Ça m'étonnerait. Bon, après, peut-être qu'il y a eu quelque chose. Actualité. Donc là, je retrouve l'article de Libé que je viens de lire d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a pas de déclaration. On verra demain, puisque manifestement, la rencontre de Hambourg se poursuit demain. Ok, bon, on verra demain. À suivre. Hein? Alors, certains connaissent le sujet de l'énergie au niveau européen. Vous avez Elviv Zorblog qui écrit « Hâte qu'on sorte de ce délire de l'électricité au prix du pétrole. » Enfin, précisément, au prix du gaz. On va parler de rugby après. Merci Xiris pour le très gentil message, le 16e mois d'abonnement. Merci Stet11 pour le Prime. Merci Mimi, que je n'avais pas vu. Merci pour le 4e mois d'abonnement, vous êtes adorable. Je vous lis sur l'Allemagne peut-être un petit peu. Merci Ankila pour le 26e mois, c'est adorable. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde dans le chat pour défendre les positions allemandes depuis, notamment au niveau européen, depuis quelques années, quoi. Salut, je ne sais pas si je prononce bien, Tessman, merci pour ton message. On parle de rugby quand même un petit peu, parce que moi, j'ai un peu perdu le fil avec les matchs là où on en est. Alors je sais qu'on est essayé, on arrive vers les quarts. Je crois que la France joue contre l'Afrique du Sud dimanche, c'est ça, 21h, je crois bien. Est-ce que vous confirmez que la France joue l'Afrique du Sud en quart de finale dimanche soir à 21h? Ouais. Du coup, j'ai envoyé un message à mon invité. Je vous ai dit qui je recevais dimanche dans Simplay? Non, je vous ai pas dit. Et je vais pas vous le dire encore, c'est la surprise. Eh bien, je me demande si je ne vais pas avancer le match. Parce que bah, je me dis qu'il y a beaucoup qui vont regarder à partir de 21h le match France-Afrique du Sud dimanche, donc je me dis je vais avancer le live, donc j'ai proposé à mon invité aujourd'hui d'avancer le live à 17h pour faire Simplay 17h-20h, hein, vous en pensez quoi? Comme ça vous pouvez voir Simplay et ou alors on avance le match, ouais. Ah merde, c'est moi qui ai fourché, j'ai dit avancer le match, ah, je suis con. Je pensais que c'était une vanne, j'ai fourché, non, avancer le Simplay, pardon, bien sûr, je suis con. Oui, effectivement, c'est prétentieux, ouais. J'ai dit ça en vrai. Alors là, je suis vraiment champion, moi. Donc, est-ce que c'est une bonne idée d'avancer le Simplay? Est-ce que vous validez? Est-ce qu'on avance le Simplay à 17h dimanche? Évidemment, je n'ai pas le pouvoir de... Ouais. Ouais, très bien. Voilà. J'aime beaucoup ton contenu, mais le rugby sera ma priorité. Voilà. Ouais. Ok. Vous savez quoi? Je pense qu'on va avancer le... J'espère que mon invité peut. Je crois pas qu'il m'ait répondu. Je vais regarder. Je crois pas qu'il m'ait répondu. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Oh, Ali, j'ai un message d'Alison qui est avec nous vendredi. D'accord. Oh, c'est mignon. Quelqu'un vraiment de super, Alison Wheeler, qui était avec nous vendredi dans l'hebdo Etienne. Là, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je crois que j'ai pas de retour encore de mon invité. Je ne peux pas vous confirmer en direct live. Est-ce que je lui ai seulement écrit d'ailleurs, ou est-ce que je l'ai fait dans ma... Est-ce que je le rêvais, parce que je suis un peu distrait, moi. J'ai la faute. Ok, j'avais pas vu. Ok, je vous annonce officiellement que le Simplay de dimanche est à 17h. Et mon invité qui écrit, j'avais pas vu parce que j'étais en tournage, effectivement, sacrée concurrence, même en jouant en short, on peut pas lutter. Ok, pour 17h. Ok, Simplay à 17h. Comme ça, on pourra regarder le match après. Hein? Voilà. Et n'oubliez pas que vous avez le dernier Samplay avec Sunday qui est disponible sur YouTube, notamment sur ma chaîne YouTube, voilà, consacré à ma découverte de World of Warcraft, où j'en ai pris plein la gueule. Voilà. Alors la Coupe du Monde de rugby, c'est parti. Article dans Libération. Le rugby, cela poule douce. Bon, Libération, ils aiment bien jouer avec les mots. Domination des grosses nations, blessure d'Antoine Dupont, engouement populaire. Hein. Avant les quarts de finale du week-end prochain, Libé revient sur les 8 faits marquants du début de la compétition. Chris Chinoir, tu n'as rien raté. C'est en replay sur YouTube. C'est bien, Libération nous fait une petite photo instantanée au niveau de la Coupe du Monde de rugby. Débuté le 8 septembre. La Coupe du Monde de rugby vient de mettre un terme donc à la phase de poule, hein, laissant 12 équipes sur le carreau quand les 8 autres s'apprêtent à disputer la phase finale sous forme de match à élimination directe. Donc vous avez 12 équipes qui sont éliminées et maintenant vous en avez 8 qui s'apprêtent à disputer les quarts de finale. L'occasion de revenir pour Libération sur un mois de compétition riche avant de vibrer plus fort dès le week-end prochain pour les quarts de finale qui verront notamment les Bleus de Fabien Galthié prêts à tout donner face à l'Afrique du Sud dimanche. Mais on croise les doigts pour que les Bleus passent les quarts, quoi. Trois nations, l'Irlande, l'Afrique du Sud, la France, par ordre d'entrée au classement mondial avant l'ouverture de la compétition, dominaient déjà largement le rugby début septembre. Chacune a tenu son rang. Pardon, j'ai du mal à articuler. La journée a été longue. Se qualifiant sans trembler avec dans l'ensemble un niveau de jeu si élevé qu'on voit moins que jamais. Qui pourrait créer la surprise? Alors, pour Libération, en gros, le champion du monde cette année, c'est soit l'Irlande, soit l'Afrique du Sud, soit la France. À moins que les All Blacks créent la surprise, légende, tranche générationnelle du rugby, déchu au rang d'outsider, puisque les All Blacks sont moins puissants aujourd'hui qu'ils ne l'ont été, qui, obligatoirement mortifiés, ne tomberont que les armes à la main. Donc les All Blacks qui vont rencontrer l'Irlande en quart de finale. Chez elle, la France a maîtrisé son sujet, son secret de frayeur, avec les Olivon, les Penaud, les Aldrit, les Ramos, à la hauteur de l'événement, un sourire au beau fixe jusqu'à la grimace, que vous savez, hein, la blessure du boss Antoine Dupont qui a plongé tout le monde dans un abîme de conjectures. Est-ce qu'il va pouvoir revenir jouer? Ça, c'est pour la France. Dans un sport où historiquement une demi-douzaine de nations ne laisse aux autres que des miettes du festin, chaque demi-surprise est bienvenue. Libération nous dit, bon, c'est dommage, c'est quand même un sport un peu à deux vitesses avec un certain nombre d'équipes qui forment l'élite et les autres pour qui c'est extrêmement difficile. Donc quand il y a des surprises, c'est quand même sympa. Et on a eu une petite. Début septembre, on misait une pièce sur la Géorgie et Fidji. Les premiers, les Géorgiens, ont déçu. En revanche, les Fidji ont apporté une brise de fraîcheur salutaire. Je ne sais pas si certains ont vu jouer les Fidji en faisant quasiment jeu égal avec le Pays de Galles et surtout en dominant l'Australie, ce qui est quand même quelque chose. Qualifié archi probable sous réserve d'avoir mis au moins un point contre le Portugal dimanche soir après le bouclage de ce journal. Libération a bouclé dimanche soir. Est-ce que finalement les Fidji sont qualifiés? Les Fidji sont qualifiés ou pas? Libération ne savait pas parce que le match n'était pas terminé. Non, ils sont éliminés. Ils sont qualifiés, d'accord. Ils sont qualifiés. Ok. Mais ils ont perdu contre les Portugais alors. De justesse, à l'arrache, ok. Match de fou malade et le Portugal. C'est incroyable, le Portugal a gagné. D'accord. Merci beaucoup, vous êtes formidables. Donc, ils sont qualifiés, mais ils ont perdu contre le Portugal. D'accord. Bon, c'est quelque chose quand même. Ok. Donc, a priori, ils joueraient l'Angleterre en quart. Je ne sais pas si vous me le confirmez, c'est ce que dit Libération. L'Angleterre, nation miraculée au vu de ses piètres résultats depuis 2 ans. La principale surprise de ce premier mois de joute rude balistique, c'est la très probable élimination de l'Australie. Est-ce que vous confirmez que l'Australie a été éliminée? Puisque Libération a bouclé avant la fin des matchs. L'Australie éliminée? Aussi? Oh là 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 là. L'Australie out? C'est fou ça, c'est fou. C'est fou quand même. Hein. Alors suspense pour Antoine Dupont, donc on revient en France. Qui a quitté précipitamment ses partenaires à 45 minutes de France-Namibie le 21 septembre à Marseille, après son gros choc là. Depuis, sans avoir fait médecine, tout le pays a un avis. Ça c'est drôle. Sans avoir fait médecine, tout le pays a un avis en France sur la manière de soigner une fracture maxillo-zygomatique qui ne fait rire pourtant personne. En 72, Gottlieb et Jacques Loeb avaient imaginé Super Dupont. Vous connaissez le héros de bande dessinée Super Dupont? Tout le monde connaît Super Dupont? Voilà. Un héros de BD capable de défendre les valeurs de l'Hexagone, c'est un super héros qui avait un béret, qui avait une baguette sous le bras et un camembert, je crois. un demi-siècle plus tard, sont quasi anonymes. Donc Antoine Dupont est espéré comme le Messi face à l'Afrique du Sud, champion du monde en titre quart de finale. Et vous me dites que le chirurgien Tidus Pam, je vérifie, il y a Tidus Pam qui me dit que Antoine Dupont s'est confirmé par le chirurgien. Je ne mets pas ta parole en doute, mais vous savez que j'aime sur-vérifier les infos. Est-ce que effectivement c'est confirmé Dupont par le chirurgien? Moi je l'ai pas, hein. Si. Semble se concrétiser. Ouais, c'est. Je confirme. Arrêtez les infos chat là. Moi je cherche la source, moi. Je cherche une info sourcée, quoi. Je suis pas sûr que ce soit officiel encore, hein. L'interne, c'est quoi ça? Il y a 2 heures. Pour s'entraîner. Voilà. Vous emballez pas. Voilà. Regardez comme c'est le titre putaclic là. Coupe du monde de rugby 2023, Antoine Dupont est apte à s'entraîner. Allez pas trop vite les gars. C'est nous la source, il a droit de s'entraîner. C'est bon, c'est nous la source, on a raison. Il est apte à s'entraîner. Hein. Attendez la feuille de match. Voilà. Ok, c'est pas... Hein. C'est qu'est-ce qu'on dit depuis le début? Mais oui, c'est le chat a toujours raison aussi. C'est ça? Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas sûr qu'Antoine Dupont dispute le quart de finale. D'accord? Tu vas regarder avec tes invités. Ben non, c'est interdit ça. Nanar Show, j'ai pas le droit de regarder le match. Et les droits, les gars? Et les droits? Et alors les droits? Vous voulez que ma chaîne soit ban ou bien? Comment ça, regarder le match? Mais enfin, vous êtes fous ou quoi? On n'a pas le droit. Viewing party, c'est-à-dire en fait on regarde mais on regarde pas les images, c'est ça, et chacun, tu peux regarder en commentant sans montrer l'image. Franchement, je vais vous dire ce que j'en pense. Franchement, mes commentaires sur le rugby, je pense que vous pouvez vous en passer. Franchement, vous n'avez pas besoin de ça. Je pense même que c'est mieux que vous vous en passiez. À un moment, il faut connaître ses limites. Mes commentaires sur le rugby, ça va être d'une abyssale bêtise et non maîtrise du sujet, quoi. Franchement, vous avez trouvé bien mieux que ça, quoi. Hein. Il est où le Mathieu Lartaud? C'est sur quelle chaîne d'abord, dimanche? C'est sur TF1? Je pense que c'est sur TF1. Hein? C'est ça, c'est sur TF1? Donc il n'y aura pas Mathieu Lartaud? Ah ouais. Ouais. C'est sur TF1? Ok, on va envoyer un message à Mathieu. Envoyer un message à Mathieu Lartaud. Il est où mon Mathieu? On se parle par SMS ou on se parle? On se parle. Ok. Hello Mathieu. Virgule. Désolé de l'horaire tardif quand même, parce que quelle heure il est là? Bon, c'est pas un SMS, hein, c'est un DM, donc ça va. J'écris comme un cochon. Mathieu, j'ai pas. Oh, c'est pas possible. Pas Latieu, Mathieu. Comme Myriam Mathieu. Mathieu, je vois que le quart de dimanche est sur TF1. Qu'est-ce que j'écris mal? Je suis bourré ou quoi? Je suis vieux, je sais pas. Ou il est tard. Si jamais tu veux qu'on organise quelque chose. Je vois plus rien. Sur Twitch, il est tard. Sur Twitch, c'est quand tu veux. Voilà. Avec Lartaud, d'accord. D'accord. Voilà. Et surtout, j'espère que tu vas bien, parce que c'est ça qui est important avec Mathieu. On s'en fout de faire un truc sur ma chaîne. C'est surtout que lui aille bien. Hello Mathieu, je vois que le quart de finale est sur TF1. Si jamais tu veux qu'on organise quelque chose sur Twitch dimanche soir, c'est quand tu veux. Voilà. C'est quand tu veux. Voilà. Voilà, c'est bon. Hop, petit Mathieu. Sacré bonhomme. Sacré bonhomme. Alors, il y a. Quelqu'un qui me dit, ah mais il a sûrement déjà des plans. Bon, sachez que je me permets de lui envoyer un message, parce qu'en fait avec Mathieu, ça fait un moment qu'on en parle. comme ils savaient que certains des matchs importants, ils ne pourraient pas les commenter parce que c'était sur TF1 ou sur M6, à un moment, on s'est dit que peut-être qu'on essaiera de faire un truc sur Twitch. Mais là, je le laisse à l'initiative. Il faut qu'il ait envie de faire un truc sur Twitch. Et il a peut-être trouvé d'autres idées, peut-être de le vivre tout seul en passionné de rugby dans le stade ou que sais-je. Après, voilà, je voulais juste le dire que si vous voulez faire un truc sur Twitch et vivre quand même ce match avec vous, par exemple, ça pourrait le faire. Libé nous dit aussi que ce mondial, c'est une réussite logistique. Comme espéré et prévu, la Coupe du Monde est bien une grande célébration. Cordial. Oh, les amis de France Rugby, on était en train de parler du match du quart. Hey, vous tombez à pic. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, les amis de France Rugby qui sont avec nous. Comme espéré et prévu, écrit Libération, la Coupe du Monde est bien une grande célébration. Cordiale, bruyante, c'est fou que vous nous rejoigniez là, c'est fou. Au seuil du coma éthylique, le plus bourrin des supporters ne sait ne pas dépasser le seuil de la chanson paillarde beuglée à l'unisson de métro ou le tram. Ça se passe très bien, en fait, selon Libé, ce mondial. L'organisation a été dans l'ensemble à la hauteur. Les couacs des débuts ont été vite réglés. Les forces de sécurité déployées massivement se tournent les pouces, tout va bien. Presque tous les stades ont fait le plein de l'île à Toulouse jusqu'à un Uruguay-Namibie, où les protagonistes, parfois amateurs, ne devaient pas en croire le jeu de se retrouver devant quasiment 50 000 personnes. Amis de France Rugby qui venaient de nous rejoindre, vous êtes d'accord? Libération nous dit que le mondial se passe bien. C'est aussi votre avis, ça m'intéresse, un avis de spécialiste. Côté télé, les audiences ont monté très haut, TF1 dépassant les 15 millions, notamment pour le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Elle rien, se me dit à part le prix des places, tout est parfait. Bon, c'est cool en fait, hein. Voilà. Bon, déjà, peut-être que ça va enlever un petit peu de la pression sur les JO à Paris si on a été capable de faire un bon mondial de rugby, quoi. Hein. J'attends le retour de les amis de France Rugby, leur avis là-dessus. On va finir sur un truc un peu souriant. Sur les coiffures, je sais pas ce qui a pris à Libé. Ils ont fait un coup de projecteur sur les coiffures des joueurs. Si tous les joueurs n'excellent pas sur les ailes ou au cœur des rucks, il existe une autre manière de crever l'écran, la coiffure. Ainsi, chaque grande compétition internationale apporte-t-elle son lot de looks très hasardeux. À la longue, on finit par se faire à la petite crête blonde et déplumée du pilier anglais Joe Marler. Bon, alors ça, moi, vous savez quoi? Moi, je vais aller voir les coupes, moi. Parce que moi, vu l'actualité, on a besoin un petit peu de se détendre. Et moi, je me suis dit, on va aller voir les coupes de cheveux de tout le monde. Ah oui, c'est joli. Il est où, mon Joe? Ah oui. Ah oui, la vache. Alors, attends. Je l'ai, là. Joe. Là. Là. Bon, ça va, c'est joli. Voilà. Joe Marler. Voilà. Ici. Moi, j'aime bien. Sa petite crétouille là. Ok, ça c'est Joe Marler. Ensuite, Libé nous parle des singulières dreadlocks en couette sautillante du japonais Shota Ori. Ok, Shota Ori. Shota. Ori, Ori c'est avec un Y? Non, c'est IE. Shota Ori. Sans intérêt en fait. Si, ça me fait marrer, Stéphane, c'est ça l'intérêt. Ouais, j'aime bien. C'est joli. Ça, c'est joli. Shota Ori. Voilà, ok. Allez, on continue le stylisme capillaire. Mais l'épreuve, c'est le moment ou jamais d'adresser un salut compassionnel à la calvitie contrariée par des longs cheveux qui pendouillent dans la nuque du pilier chilien Esteban Inostroza. Alors, manifestement, Esteban Inostroza, c'est pas mal. Alors, j'y vais. Excusez-moi, moi, moi ça m'intéresse. Voilà. Ça n'a aucun intérêt. Et c'est l'actu, c'est aussi ça. Comment il s'appelle notre ami Esteban? Inostroza. Alors c'est. Oh merde! Ah oui! Ah oui! Attendez, c'est quand même spécial. Hein. Là. Ah. Attends, je voudrais pouvoir zoomer là. Je sais pas si vous voyez, c'est là. Oh, t'es un Jiraya, le pauvre. On le voit à gauche, là. Oh, bah c'est un article sur les coupes de cheveux, d'ailleurs. Regardez. à gauche là. Vous voyez ou pas? Oh là, il y a un petit mulet au milieu là. Ça se trouve, ils sont dans l'article de Libé. Donc à gauche, vous avez la. Donc je cite, hein, la calvitie contrariée par de longs cheveux qui pendouillent dans la nuque du pilier chilien Esteban Inostroza. L'impossible mulet blond de Timothée Chalamet. On va aller voir ça. Non, pas de Timothée Chalamet, mais la phrase c'est ça. L'impossible mulet blond qui anéantirait le pouvoir de séduction de Timothée Chalamet. Ouais. Je sais que c'est un acteur quand même. Mais qui continue de faire des ravages dans le sport. Du demi de mêlée, Jonathan Tomatel. Ah ben il est là. Eh ben il est là. Il est là. Il est à droite. Petite coupe mulet là. Voilà. Très audacieux, très technique comme dit Guérico. Ouais, c'est ça. Ok. Et on a la grosse touffe peroxydée juste à l'arrière du crâne du pilier tongien. C'est lui ou pas? Non, c'est pas lui. Siegfried Fisioy. Putain, les amis de France Rugby doivent se dire, mais Étienne, il n'en a rien à carrer du rugby. Si, si, c'est drôle. Siegfried. Oh, j'écris comme un cochon. Siegfried Fisi. Oh là là, Fisioy. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Bon, ça va. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent, Libé? La grosse touffe peroxydée. Ouais, ça va. Ça va, c'est pas. Ça va. Ça va. Ça va. Bon, ça va. Ça va. Il y a Truffu qui dit c'est beau un mulet. Moi, en vrai, moi, je trouve que le mulet, c'est assez joli, effectivement. Il n'est pas impossible, d'ailleurs, que dans les prochains mois, à la faveur de la liberté que je trouve sur Twitch, eh bien, que je me fasse. Imaginez-moi un instant. Avec un petit mulet. Alors après, un mulet de cheveux blancs. Dans la chanson de Georges Brassens, petit cheval blanc. Il était un petit cheval blanc. Hein? Un petit mulet. Vous pensez quoi? Blanc. Un giga mulet peroxydé. Même pas cap. Oh, je suis cap de tout, moi. Voilà. Bon, les amis. Alors, j'avais un autre article sur les IA qui vont peut-être. Oh là, j'avais deux articles, mais là, il faut que j'aille me coucher parce que. Il faut que j'aille travailler. La journée a commencé pourtant à 5h pour lire les journaux que je vous ai lus ce soir. Sur le Proche-Orient, ça me semblait essentiel. Après, je suis parti à Question pour un champion. Après, je suis rentré en courant. Après, j'ai passé un petit peu de temps avec les enfants et avec mon amoureuse. Après, je suis venu ici. On a fait la petite revue de presse. Je vous avoue qu'il restait un article sur la Formule 1. Et un article sur les speakerines, les présentateurs, demain peut-être remplacés par des IA. C'est passionnant, mais, je vais devoir vous laisser parce qu'il faut que je bosse en fait sur la programmation de l'hebdo Étienne. Parce qu'en fait, pour l'instant, je n'ai pas tous mes invités. Voilà, donc la prog, c'est moi qui fais tout. Et donc, ce n'est pas fini. Il faut que j'envoie à Pépin les infos sur les jeux et parce que c'est. Un trio de jeux, hein. Je me suis trompé dimanche soir. Minecraft, c'est pas ce dimanche-là, c'est le dimanche d'après. Et donc là, dimanche, c'est un trio de jeux, voilà, choisi par mon invité, notre invité, que je vais vous annoncer dans les prochains jours. Donc il faut, voilà, il faut que je bosse ça sur Simplay, sur l'hebdo Étienne, et aussi sur mon stream de lundi, puisque lundi, on se reverra à 20h le président de l'ARCOM. Je suis crevé d'avance. Bon. Donc, ne m'en voulez pas. Attends, je vais tenter de dire ces journaux en plus. Quelle heure il est là? Bon, il est 23h. Non, je peux pas. Non, je peux pas parce que je vais me coucher encore. Je vais encore dormir pas assez. Et puis demain, je vais avoir du mal à poser mes questions aux gens. Donc, non, il faut. Allez, tant pis. Il faut mieux. Voilà. Je vous montre ce que je voulais quand même vous lire. J'avais une page super sur Verstappen, sur le nouveau titre de champion du monde, le troisième de Max Verstappen, et j'avais un article passionnant, mais je vous le mets de côté, sur les nouvelles speakerines artificielles déjà stars de la télé et en streaming, les IA. Voilà. Donc, bof. Bon, je vous mets ça de côté, c'est pas perdu, et on va faire un petit raid, voilà, pour aller soutenir le travail de quelqu'un d'autre, et après je vais mettre sur mon petit ordinateur pour bosser un petit peu, quoi. Voilà. Ok. Alors, les amis, dites-moi qui. On fait une petite pause de 2 minutes rapide là. Allez, je vous mets 2 minutes de musique, ok. Hop, et puis dans 2 minutes, on raid à partir de vos propositions. Ok ? De vos propositions de raid. En tout cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi et merci pour tous les soutiens. Je vous mets 2 minutes de musique, 2 minutes de pub pour ceux qui ne sont pas abonnés. Dans 2 minutes, on se retrouve et on fait un petit raid tous ensemble. Et on se donne rendez-vous demain soir, puisque demain soir, je serai de nouveau avec vous. Je vous dis à tout de suite. En musique, je vais vous mettre... Je vais vous mettre un truc un peu cool. Ça, c'est cool, ça. Non, c'est pas cool, ça. Non, c'est pas cool, ça. Ça. Ouais, c'est cool, ça. Hey, à tout de suite, hein. Bande de belles personnes. Trop fort, ça. Je baisse, je baisse. Alors, on va où ? Dans 30 secondes. J'aime bien cette chanson, cette petite pop, toute cool, toute sympa du soir là. Les amis, vous m'avez signalé que l'ami Cheat Meal Hero slash Eric est en live actuellement. Eric, c'est ce créateur de contenu, ce garçon super sympa, adorable, qui tous les vendredis nous régale parce qu'il a des grands talents de cuisinier dans l'hebdo Étienne. Et là, il est en raid, il est en live actuellement. Il y a 6 viewers sur sa chaîne. Vous êtes quelques-uns. Saluez l'ami Eric de ma part, c'est quelqu'un de formidable que j'aime beaucoup. Hop, je charge le raid. Je vous souhaite une très belle soirée. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. Merci pour votre patience, pour nos échanges ce soir sur le Proche-Orient, sur un sujet aussi compliqué. Je vous retrouve demain soir sur des petits streams que je ne peux pas faire le matin en ce moment. J'essaie de vous les caler le soir pour être là quand même. Raid dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonne soirée, à demain. Merci beaucoup.